Vous savez que quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de sortir les Bnei Israël d'Égypte, de sortir les Juifs d'Égypte, alors Moshe il a dit, bon alors comment je vais te présenter à eux? Par quel nom? Comment je vais te présenter à eux? Alors Hachem il lui a dit, tu vas leur dire que je m'appelle Eke Asher Eke, d'accord? C'est un des noms divins, donc on le déforme un peu pour pas le prononcer tel qu'il s'écrit. Et ce qui voudrait dire, je serai celui que je serai. Et ça, c'est la définition que Dieu a voulu donner de lui à Moshe Rabbeinu pour qu'il le présente au Bnei Israël. Alors, le Sforno, qui a un commentaire qui est connu, qui sur ce passouk même, regardez ce qu'il dit. A Ovetamid al Inyan Echad. Alors, un présent perpétuel al Inyan Echad. Sur un seul sujet, mitzad atzmo, par rapport à lui-même. Pour l'instant, c'est des Chinois, je sais, mais juste, on va traduire le sforno et après, on va réfléchir dessus. Comment il traduit « je serai celui que je serai » C'est un être ou un présent perpétuel sur un seul sujet, par rapport à lui-même. Ça veut dire que tout est référencé entièrement par rapport à lui-même. Vous savez que la vérité d'Hachem, elle n'est pas comme la vérité de n'importe qui. Comme l'existence de Dieu, elle n'est pas comme l'existence de n'importe quoi. Parce que l'existence de quelque chose, elle est toujours référencée par rapport à autre chose. Quand vous savez qu'une chose existe, c'est toujours par rapport à autre chose. Par exemple, l'obscurité, vous savez que ça existe par rapport à l'obscurité. Le grand par rapport au petit. Le chaud par rapport au froid. Il y a toujours, l'existence, c'est toujours lié à une référence. Maintenant, Dieu, il n'existe pas en référence à quelque chose. Il existe sans référence. Le monde pour exister, il a besoin d'une référence. Et la référence absolue, c'est Dieu. Mais Dieu, il n'a pas besoin de référence pour exister. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, il est. Il existe. E-S-T, il est. D'accord ? Il fait exister. Mais en vérité, Dieu, il n'existe pas. Il est. Alors, quelle différence entre être et exister ? C'est que celui qui existe, ça veut dire qu'il a un potentiel. C'est ce qu'on a développé un petit peu hier. Et il le réalise. Il existe son potentiel. Mais pour Dieu, il n'y a pas une différence entre son être et son potentiel. Dieu, il est. Deuxièmement, celui qui existe, ça veut dire qu'il est en allant, en disparaissant. C'est comme quand vous avez une bouteille. Plus vous la videz, moins elle est pleine. Et quand vous avez commencé à la vider, vous savez qu'elle est proche de se finir. Donc, celui qui existe, automatiquement, il contient la mort. Parce que celui qui a un début, il a une fin. Or, Dieu, il n'existe pas. Dieu, il est. Pour ça, on dit Melech Chai Vekayam. C'est un roi vivant. La vraie définition de la vie. Par exemple, nous, on n'est pas essentiellement vivant. Vous avez remarqué. Puisque dès qu'on est, en réalité, on commence à mourir. Comme une plante, dès que tu la coupes, elle va se faner fatalement. Tu dis pourquoi? C'est normal. Donc, on n'est pas vivant dans le sens de la continuité. On est vivant dans un ponctuel présent qu'on peut calculer. Mais Dieu, il est vivant éternellement. Et pas vivant par le fruit d'une opération d'existence, donc de passé, de potentiel au réel, mais il est lui-même, il est. Alors comment il appelle ça le Sforno? Ové, Tamid, un être ou un présent, perpétuel, Al Inyan Echad, sur un seul sujet, parce que si on dit plusieurs sujets, automatiquement on dit pluriel, on dit séparation. Donc on dit aussi taille. Donc Dieu, il est un. Il est unité, il n'est pas séparé. D'accord ? Mitzad atzmo, par rapport à lui-même, il est référencé à lui-même, il n'est pas référencé au monde. Ça, c'est la traduction de la première phrase. Ou mizei itrayev, et cela, ça va engendrer, ça va obliger, il dit le Sforno, chez Yaev Ametsiout, que Dieu va aimer, ça va entraîner que Dieu va aimer la réalité. On parle rapport. Veisne. Kol Efsed, il va haïr toute forme de perte, de gaspillage, mineged la metziout, ce qui va contre la réalité. Oh là là, quel rapport. Quel rapport entre l'existence perpétuelle et la haine du gaspillage ou l'amour de la réalité. Vous suivez là pour l'instant, ça va? Beomro, comme c'est marqué, qui leur pose bémot à ma vête, il dit, je ne désire pas la mort du mort. Dieu, il veut pas qu'un homme, même s'il a fauté, il meure. Il veut qu'il fasse ses chevaux. Il veut pas qu'il meure. Maintenant, un homme, il peut choisir sa mort. Un homme, il peut provoquer sa mort. Mais c'est bête, c'est idiot. Il vaut mieux qu'il vive. Alors Dieu, il ne veut pas la mort du mort. Il ne veut pas la mort du rachat. Ou misé itrayev, et ça, ça va engendrer aussi, chez Yalev Mishpat, que Jboukhou, il va aimer le jugement, ou Tzedaka, et la justice, Asher Tachlitam Metziut, dont le but est la réalité. Puisque lui, Dieu, il est perpétuel, donc c'est pour ça qu'il aime la justice, puisqu'il aime la réalité. Donc maintenant, il y a un lien entre la réalité et la justice et l'être perpétuel. Bon, on continue. Visne Avel, il va haïr le vol, la triche. Varzariout, la cruauté. Amatim, à quelque autre, elle est dervée. Qui amène, oui, des problèmes et des soucis vers le gaspillage et vers le néant. Ou baiser sonné Hamas, c'est pour ça qu'il va haïr. Donc le vol par violence, vers Zariout, et la cruauté des Égyptiens, Nekdechem, qui sont face à vous. Bon, pas grave, la fin, ça ne nous intéresse pas. En tout cas, on voit ici un principe qui est un principe de perpétuité. Que Hachbourou, c'est un présent continu, un présent perpétuel. Alors, on a posé plusieurs questions pour essayer de voir qu'est-ce qui contient ce fourneau, pour essayer de comprendre ça. Parce que c'est marqué aussi « Vani Hachem Loshaniti » et « Moi Hachem, je n'ai pas changé ». Oui, cette notion de perpétuité que nous, on n'arrive pas à comprendre. Parce que nous, étant donné qu'on s'inscrit dans le temps et on s'inscrit dans la matière, donc automatiquement, on s'inscrit dans le changement. Pour nous, qu'on le veuille ou non, les choses, elles passent, les choses, elles s'usent. Alors, on n'arrive pas à comprendre que ça veut dire quelque chose qui dure. On a du mal. Comme il dit le Rambam, « El marchez vos tailles, marchez vos techem, mes pensées ne sont pas vos pensées. » Il y a beaucoup de gens qui se demandent « Pourquoi Dieu il a fait ça ? Pourquoi Dieu il pense comme ça ? Qu'est-ce que Dieu il pense ? Qu'est-ce que Dieu il ressent ?» Il faut avoir ce qu'on appelle la modestie intellectuelle de comprendre que nous ne sommes pas des dieux. Je sais que ça a l'air débile, mais il y a beaucoup de gens qui se prennent pour Dieu. Beaucoup. Beaucoup. Il y en a même qu'on a cloué pour se rappeler d'eux. D'accord ? Mais c'est un réflexe naturel chez l'homme de se croire divin. Et c'est normal en vérité, vous savez pourquoi ? Parce qu'il contient une neshama qui, elle, est divine. Et c'est très difficile de faire la paroi entre la personnalité et l'âme. Donc, pour peu qu'un type, il saute le pas, il peut se croire infini. Et de là, il se prend pour Dieu. C'est vite fait. Hein ? Alors, maintenant, lui, Dieu, dans son essence, il n'a rien à voir avec nous. Même dans sa face la plus externe. Alors, si c'est ça, on va essayer de regarder plusieurs guémarotes qui vont nous éclairer un petit peu sur ces différentes notions. C'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin. Kol Dayan Adan Din Emet Lamito Akadosh Baruch Hu Shutaf Oto Lemaase Bereshit. Tout juge qui fait un jugement vrai, Hachem l'associe à la création, ouais, à la création du monde. Vous savez que un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Emet, la vérité. Et le but de ce monde, c'est le Emet, c'est la vérité. Chotmo shel Akadosh Baruch Hu, la signature de Dieu, c'est Emet, la vérité. Maintenant, Dieu, il a créé ce monde pour qu'il aille dans le sens du Emet, le sens de la vérité. Or, quand on dit qu'on a créé le Emet, alors quel rapport entre le Emet et le juge ? Vous allez dire, mais le juge, c'est normal, le juge, il cherche le Emet, il cherche la vérité. D'accord ? Mais vous savez, quand vous allez parler avec des gens qui travaillent dans le droit, ou qui étudient le droit, ou qui appliquent le droit, ils vont vous dire que la vérité, elle est loin de la loi. Elle est très loin. Et qu'il y a des différences entre un arrangement, qu'il y a une différence entre la vérité et la présomption du juge, qu'il y a une différence dans la perception de chacun des avocats, la différence de combien tu payes ton avocat, la différence comment tu montes un dossier, la différence de la conjoncture, la différence de la couleur de la peau. Oh là là, il y a beaucoup de choses qui influent. Alors où est la vérité ? Très dur dans un tribunal. Vous savez, vous voyez la balance là, avec l'autre là. Mais c'est marqué dans la Gemara. À chaque fois qu'un juge, il fait un jugement vrai, alors il est associé à Dieu dans la création du monde. Mais quel rapport entre la création du monde, il y a 6000 ans, ouais, et maintenant, un jugement. Il y a deux juifs qui vont chez le juge, il dit voilà, lui il m'a emprunté, il m'a pas rendu. L'autre il dit moi j'ai rendu, et il commence à se bagarrer. Alors maintenant, le juge il va dire toi tu payes, et toi tu encaisses. Et alors maintenant, quel rapport avec la création du monde ? Quel rapport ? Alors, il faut comprendre une chose incroyable. Quand Dieu crée le monde, il met les éléments en place. Maintenant, ces éléments en place, même s'ils sont ponctuels parce que c'est la création du monde, l'équilibre que vous trouvez à l'intérieur de la création, en vérité, c'est un équilibre qui se perpétue. Mais cet équilibre, avant, il a été au départ, il a été créé par Dieu, et ensuite, il a été perpétué par les hommes. Je vous donne un exemple. La justice, c'est de faire que les morceaux qui étaient séparés se rejoignent. Toi, tu as emprunté 1000 francs, donc tu dois rendre les 1000 francs. Toi, tu as prêté 1000 francs, donc tu dois retrouver tes 1000 francs. Quand toi qui as emprunté, tu payes, c'est émettre. Quand toi, tu as prêté, tu retrouves, c'est émettre. Mais qu'est-ce que ça veut dire émettre? Ça veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est entier, c'est complet, c'est fait. C'est réparé. Je l'ai dit hier, la blague avec le chèque. Mais rappelez-vous que cette blague-là, c'est pas une blague du tout. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre une chose qui est entière et une chose qui n'est pas entière. Par exemple, voyez, l'œil, il est habitué à voir des choses normales. C'est-à-dire normal. Qu'on le veuille ou non, on dit on est choqué par un visage déformé, on est choqué par un corps déformé. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pas parce que, bon, les goyim, ils disent que psychologiquement, on est conditionné par des images de magazines qui nous donnent une image de la normalité qui fait qu'automatiquement, on est choqué par ce qui est anormal. En vérité, c'est pas pour ça. C'est parce que notre œil, il est conçu sur un mode qui s'appelle le mode de nombre d'or, qui fait que dans la nature, on cherche toujours à faire et à rétablir les choses dans un certain ordre. Une courbe, on la regarde avec un certain angle, avec une certaine forme. Un corps, on le regarde avec une certaine forme, chaque chose. Maintenant, ce qui est incomplet pour nous, ça sonne faux. Et ce qui est complet, ça sonne vrai. C'est comme ça. Par exemple, vous prenez un puzzle. Il est démonté. C'est moche. Il est fini, c'est beau. Pourquoi c'est plus beau quand c'est fait que quand c'est démonté? Tu dis, mais ça n'a rien à voir. Là, tu as une belle image. Et là, t'as plein de petits morceaux. Ça n'a aucun rapport. Je dis, alors, peut-être c'est beau le fouillis. Il y a des gens qui ont un fouillis artistique chez eux. Ils n'aiment pas les trucs tout rangés. Alors, c'est quoi le beau, c'est quoi le moche? Et pourtant, quand une chose, elle est pleine, on la trouve belle, et quand elle est manquante, on la trouve pas belle. Mais pire que ça, le même puzzle, mais il manque une pièce. Ah là, il n'a plus aucune valeur, le puzzle. Tu le jettes à la poubelle. Ou alors, non, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la pièce. Tu vois la satisfaction de voir la pièce qui manque et de la mettre? Oui? Ça, c'est ce qu'on appelle la shlemout, ce qui est entier. Le sentiment qui accompagne ce qui est entier, ouais, s'appelle le émet. Le sentiment du émet. Ce qui est lié à la joie aussi. Parce que la joie aussi, c'est ce qui est entier. Mais quand c'est émet, c'est entier. Comme une situation, ça sonne faux. On te donne la solution, tu dis, ah, c'est bon, c'est vrai. Là, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? C'est complet. Quand il manque un élément, ça sonne faux. Quand il y a tous les éléments, même si c'est moche, c'est vrai. Donc vrai, ça ne veut pas dire beau. Vrai, ça veut dire complet. Faux, ça ne veut pas dire moche. Faux, ça veut dire incomplet. Émettre, c'est quoi? Complet. Moi, j'ai emprunté de l'argent. Qu'on me l'emprunte, on me le demande ou on me le demande pas, à l'intérieur de moi, tant que je n'ai pas rendu cet argent, au fond, je me sens mal. Au fond. Même si je suis un malhonnête, au fond, je me sens mal. La preuve, quand je croise la personne, je change de trottoir. L'autre, c'est pareil. J'ai prêté l'argent. Au fond, tant qu'on ne me l'a pas rendu, ça me fait quelque chose. J'ai beau dire, hein, c'est un chien sadique, que je le compte dans le maaser, bliné d'air, je le rends, j'en veux pas. Mais à l'intérieur de moi, je dis quand même, les 1000 balles, il aurait pu me les donner. Donc moi, je suis pas complet quand on m'a pas rendu l'argent. Moi, je suis pas complet quand j'ai pas rendu l'argent. Quand lui rend l'argent et lui reçoit l'argent, ils sont complets les deux. Comment s'appelle ça? Emmet. Ça, c'est au niveau humain. Maintenant, si on recule encore plus loin, c'est pas par hasard que ce monsieur-là, il a eu besoin de 1000 francs. Et c'est pas par hasard que ce monsieur-là, il a eu les 1000 francs. Donc, c'est normal que cette personne-là, elle reçoive ce qu'elle doit recevoir, et c'est normal que cette personne-là, elle paye ce qu'elle doit payer. Mais là, on rentre dans un autre regard, un autre compte. C'est quoi? C'est que chacun, il a ce qu'il mérite. Avec Jouhou, il a un compte très long. Très long. Très long. Alors, on va pas prendre un exemple de dette parce qu'on a du mal à comprendre. On va prendre un exemple de dommage. Il y a un dommage. Toi, tu avais un vase à 10 000 dollars. D'accord? Et il y a le déménageur, il est venu et il a poussé la commode Louis XVI. Et en poussant la commode Louis XVI, il a fait tomber le vase à 10 000 dollars. Maintenant, vous êtes chez le Dayan. Alors le Dayan dit à monsieur, vous avez cassé un vase à 10 000 dollars. Et tu dis oui, d'accord, mais moi je suis venu pour pousser la commode et lui il n'a pas rangé ses meubles avant. Alors il commence à discuter. Mais alors le type qui a perdu le vase, lui en vérité, il mérite de perdre le vase. Il n'y a pas de hasard. Le type qui a cassé le vase, il mérite de casser le vase. C'est un négligent. C'est le prix de la négligence. C'est cher. Il n'y a pas de hasard. Maintenant que je m'en fous, il faut qu'il réorganise les choses. Comment il va faire? Comment il va faire? Alors il trouve un juge. C'est quoi le juge? C'est un médiateur qui est là pour coller les morceaux. Celui qui mérite de perdre 10 000 dollars, il perd 10 000 dollars. Celui qui mérite de gagner 10 000 dollars, il mérite de gagner 10 000 dollars. Lui, peut-être qu'il mérite de les perdre. Parce qu'un jour, il a fait une crasse à 10 000 dollars à quelqu'un. Mida kenegen mida, il faut qu'il paye un jour. Voilà, il paye aujourd'hui avec son vase. Celui-là, il a fait une grande tova un jour. Il a fait un grand bien. Et il n'a jamais été récompensé pour ça. Un jour, il ne laisse rien au hasard. Il va toucher 10 000 dollars. Peut-être ici, c'est juste le fait qu'il n'a pas besoin de les payer. Qui c'est qui fait le lien entre les morceaux de ce que tu dois recevoir, de ce que tu dois perdre? Le Dayan. Comment s'appelle le lien entre toi, ce que tu dois gagner, et toi, ce que tu dois perdre? Ça s'appelle le Emet. Le Emet de toi, le Emet de lui, et le Emet des deux. Qui c'est qui fait ça? Le Dayan. Donc quand il est en train de faire ce Emet-là, le Dayan, il est associé à Dieu dans la création du monde. Parce que Dieu, depuis le départ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place des éléments qui s'appellent le Emet. À chaque fois que vous trouvez que deux éléments ils sont indissociables et qui se retrouvent, ça s'appelle Emet. C'est comme ça. Par exemple, voyez l'eau, elle s'évapore. C'est une noix. Ben, c'est Emet. L'eau, ça s'évapore. Vous avez vu les falaises? Elles s'usent. Vous dites, ben, c'est une loi immuable. Vous voyez, le corail se développe. Et ben ça s'appelle le Emet. Le Emet, c'est quoi? C'est que les choses se rencontrent. Maintenant, vous voyez ce petit poisson, il est mangé par le gros poisson, c'est Emet. Le thon, il est pêché par le pêcheur, c'est Emet. Emet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règles, elles s'appliquent et elles se perpétuent. Mais à chaque fois, entre quoi et quoi? Entre un besoin à combler et un élément qui est prêt pour le combler. Et ça se comble. Maintenant, Dieu, dans toute la nature, il crée les liens. C'est comme quand on standardise, ça veut dire qu'il branche des trucs. Et bien, chacun, il entend la communication des deux côtés. Tous les morceaux dans la nature, c'est Dieu qui les comble. C'est Dieu qui remet les morceaux. Ah, entre les hommes, Dieu il t'a mis au milieu. Il t'a dit, vas-y, débrouille-toi. Et toi, le juge, tu vas recoller les morceaux. Mais c'est dur. Quand le juge, il fait un dîne qui émet, ouais, automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recollé les morceaux. Les morceaux de l'homme à lui-même et les morceaux de l'homme à l'homme. C'est la justice. C'est pour ça que il y a une dimension qu'on a du mal à comprendre. C'est que la justice, elle doit être en même temps vraie pour les hommes et en même temps vraie pour Dieu. Et ça, c'est une chose qu'on a du mal à vivre. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, c'est marqué aussi dans la Gemara dans Sanhedrin, Daf Kaf Gimel, un truc incroyable. C'est marqué que les témoins, pas les témoins, les plaignants, comment quand on a un problème d'argent, on doit choisir trois juges. D'accord? Maintenant, les juges, ils doivent être... Il y a une discussion, mais on va prendre le plus simple. Les juges, ils doivent être choisis par les deux plaignants. Donc, un plaignant choisit un juge. Le deuxième plaignant choisit un deuxième juge. Et le troisième juge est choisi par les deux plaignants. Ou par les deux juges. C'est une marloquette, c'est une discussion entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. D'accord? D'accord? C'est clair. Alors maintenant, pourquoi est-ce que... Alors, c'est marqué dans la Gemara. S'ils font comme ça, que celui-là, il choisit son juge, et celui-là, il choisit son juge, et que le troisième juge, il est choisi par les deux juges, alors, Yetzé Adin, Emet Lamito. Le jugement va sortir vrai. Alors, nous, pour nous, quand on dit vrai, ça veut dire Emet absolu. La vérité absolue. Vous allez voir qu'il y a aussi une vérité relative là-dedans. C'est quoi? Parce que le Rashi, sur place, il explique, il dit, que ça veut dire le jugement va sortir vrai? Puisque, écoutez bien ça, puisque les deux plaignants, ils sont convaincus, chacun, que chacun des juges a cherché son intérêt personnel puisqu'il a choisi son juge. Donc chaque juge a choisi son intérêt personnel le maximum. Donc s'il sort innocent, c'est qu'il est innocent. S'il sort coupable, c'est qu'il est coupable. D'accord? Comme ça, il explique Rashi. Nous, là-dessus, on a une question de folie. On dit, mais attends. La vérité, c'est pas que les plaignants se sentent bien quand ils sortent du jugement. Si la vérité, elle est absolue, qu'est-ce que j'en ai à faire de la tête des plaignants? Qu'ils soient contents ou pas contents. Qu'ils soient bien dans leur peau ou mal dans leur peau. Si t'es hayav, hayav, t'es pas hayav. Pas hayav. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous comprenez ce qui est marqué là-bas dans Rashi? C'est marqué que pourquoi le jugement il est vrai? Parce que les plaignants, quand ils sortent, ils disent, ben, si je suis hayav, si je suis coupable, c'est que je suis coupable. Parce que je sais que le juge, il a tout fait pour savoir si j'étais innocent ou non. Et l'autre, il dit, ben, si je suis innocent, c'est que je suis innocent, parce que je sais que le juge, il a tout fait. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire, ce qu'il a dans la tête, le plaignant? Si on cherche l'absolu, on s'en fout du plaignant. Oui ou non? Pas du tout. Pas du tout. La vérité, elle doit être vraie dans la tête du plaignant et dans l'absolu. Les deux en même temps. Donc il faut que le jugement il soit fait dans les règles et il faut que le plaignant il soit bien dans sa tête en sortant. Et ça s'appelle émettre la mytho. Pourquoi? C'est normal. Parce que c'est des étapes. Moi, quand je sors du jugement, il faut que je sois bien dans ma tête. Parce que si je suis mal dans ma tête, je vais le générer pendant des années, ce mal de tête. Le contraire aussi. Si je suis bien et que c'est pas bien d'être bien, parce qu'en vérité, j'ai tort, c'est mauvais aussi, je vais le payer plus tard. Pourquoi? C'est pas émettre. Émettre, c'est pas simplement que dans l'absolu, on a affaire à un tzaddik et le jugement, il a été fait par le tzaddik et le tzaddik, il a la résidence divine, la présence divine dans le tribunal. Est-ce qu'il a dit c'est vrai? Et nous, on dit, bah, c'est le tzaddik. Non, il faut aussi qu'à l'intérieur de nous, ça soit clair. Il faut qu'on soit bien dans notre tête. Sinon, il n'y a pas de émettre. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que le Emet, il est aussi à l'échelle humaine. Il n'est pas seulement à l'échelle absolue. Or, quand un juge, on dit qu'il est associé à Dieu dans la création du monde, parce que Dieu, ça, son nom, c'est Emet, et Dieu, qu'est-ce qu'il refait? Il recolle tous les morceaux. Et c'est ça, le recoller les morceaux, par exemple. Dieu, il crée des couples. Ça s'appelle qu'il crée des morceaux. Il recolle des morceaux. Oui ou non? Dieu, il donne les enfants. Donc, il recolle les morceaux. Quand il dit 7 enfants dans cette famille, il recolle les morceaux. Dieu lui donne la parnassa, c'est quoi? Ces moyens-là, pour cette personne-là, c'est quoi ça? Émettre. Essayez de comprendre au fur et à mesure que le mot émettre, il ne veut pas dire vrai. Le mot émettre, il veut dire entier. Vous comprenez ça ou non? Entier. Donc à chaque fois que vous trouvez une notion d'entier, de émettre, ou de shalom, ou de simcha, c'est le même principe. C'est que les choses, elles sont entières. Donc si le juge, il doit faire un jugement qui est vrai, donc il doit faire un jugement qui est entier. Donc il est associé à Dieu dans la vérité. Deuxième Guémara, qui est intéressante aussi. Ah oui, alors donc on a dit que Dieu, il aime la réalité. C'est quoi la réalité? C'est justement le fait que les éléments collent. Tout va ensemble, tout est construit. Ça s'appelle la Metsiout. Et nous, on est gênés quand on ne trouve pas la réalité. Par exemple, je vais donner un truc incroyable. Vous voyez le sentiment d'injustice? Oui? Tout le monde l'a, le sentiment d'injustice. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le sentiment de la justice. Mais tout le monde a le sentiment d'injustice. Quand on leur fait une crasse, quand on n'est pas bien avec eux, quand on leur fait quelque chose qui ne va pas, ils sont offusqués. Ça va? Maintenant, si quelqu'un n'est pas religieux, et quelqu'un qui n'a aucune morale, oui? Et quelqu'un, on va dire, il est esprit genre cartésien, scientifique, arbitraire, total. Comment ça se fait qu'il a la notion d'injustice dans la tête? Ça n'existait pas l'injustice dans la nature. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, quand la panthère, elle mange la gazelle, il n'y a pas de justice là-dedans. Quand l'éléphant, en marchant, il écrase la femme adorée du crapaud, il n'y a pas de justice. Nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est la nature. La nature est ainsi faite. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. C'est-à-dire que celui qui pense que personne n'a créé le monde et que le monde s'est fait tout seul, donc il n'y a pas d'ordre. Donc s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de désordre. C'est s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'injustice. Or la justice, ça répond à un certain ordre qui est une hiérarchie des priorités. Mais s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'injustice. Alors pourquoi est-ce qu'un homme qui est complètement athée, il peut avoir le sentiment d'injustice? D'où ça lui vient, ça? Comment quelqu'un peut dire, mais c'est pas normal? Mais ça veut rien dire, pas normal. Puisque toi, tu penses que le monde s'est fait tout seul par le Big Bang. Donc, il n'y a pas d'ordre. C'est fait n'importe quoi. Ça aurait pu être comme ça ou autrement. Il n'y a aucune logique. Est-ce que vous me suivez? Celui qui veut jouer la carte de la science, celui qui veut jouer la carte de l'arbitraire, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de loi du bonheur ou du malheur ou d'être heureux ou malheureux. C'est arbitraire. On peut vivre, on peut mourir, on peut. Il n'y a aucune logique puisqu'il n'y a pas d'ordre. La notion d'ordre, elle vient de la hiérarchie qui vient d'une autorité, qui vient de priorité. Mais il n'y a pas d'autorité supérieure, donc il n'y a pas de volonté première, donc il n'y a pas de hiérarchie, donc il n'y a pas d'ordre, donc il n'y a pas de justice. Pourquoi tu te plains? Et pourtant, on a le sentiment d'injustice. Quand on voit quelqu'un qui fait du bien et qui reçoit du mal, on dit comment ça se fait? Quand on voit quelqu'un qui fait du mal, il reçoit du bien, on dit comment ça se fait? Quand on travaille et qu'on n'est pas payé, on s'énerve. Et pourquoi? Mais qui t'a dit que tu vas être payé? Quand on prête de l'argent et qu'on ne reçoit pas, on s'énerve. Pourquoi tu t'énerves? Mais ça va pas, on est dans un monde arbitraire. Vous comprenez ou non? Pourquoi on a cette notion-là de la droiture, de l'exigence? Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça peut te faire, de toute façon? C'est la vie, mon frère. T'as qu'à crever, t'as donné 1 million de francs. On te les a pas rendus. Et alors, quand tu vas te baigner, il fait pas toujours beau. Des fois, il fait moche. Eh ben, il fait moche, c'est tout. La vie est moche. Tu me dis, je vais te tuer, mais la vie est moche. Pourquoi on s'énerve? Alors, c'est un truc incroyable. La notion d'injustice, elle est incluse chez tout le monde. Et ça, c'est incroyable, parce que si on n'a pas de référence, comment on peut trouver que c'est injuste? Pourquoi on dit que c'est injuste? Parce qu'on dit ça, c'est juste, ça, c'est injuste. A priori, l'injustice, c'est le contraire de la justice. Mais la justice, ça vient de la hiérarchie. Et ben, voyez cette réalité-là. Que ça, c'est normal, ça, c'est pas normal. Celui qui aime la réalité, il aime le émettre. On a dit que le émettre, c'est quand les morceaux sont ensemble. Or, quand les morceaux ne sont pas ensemble, c'est pas vrai. C'est pas une réalité. Par exemple, vous, si quelqu'un vous dit, j'ai croisé une gazelle, l'avant c'était une gazelle, l'arrière c'était un papillon. Tu dis, mais pourquoi pas? Vous savez, avec tout ce qui se passe avec le maïs génétique et tout, à savoir, peut-être une gazelle, elle a mangé beaucoup de maïs génétique, ouais, elle a fait un clin d'œil à un papillon, et hop, avec tout ce qui se passe dans le cerveau en ce moment et tout, pour peu qu'elle ait vécu à 20 km de Tchernobyl ou là que, ouais, et paf, elle a engendré une gazelle papillon. Tu dis, non, non, c'est pas possible, non. C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pas? Si déjà le monde il s'est fait tout seul, pourquoi les gazelles ne feraient pas des papillons? Pourquoi pas? Et pourquoi pas des gazelles papillons? Et pourquoi pas? Non, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est pas naturel. C'est pas la réalité. C'est pas émettre. C'est pas normal. Vous comprenez maintenant qu'il y a un parallèle entre ce qui est entier et ce qui est vrai et ce qui est normal. Ça va ensemble. Alors ici, c'est marqué une chose incroyable. Voilà Tzedaka. On a dit à Akhjbourou, il aime. Puisque Dieu, il est perpétuel, donc il est émette. Donc il aime la justice. On a vu ce que c'est la justice. Donc il aime la Tzedaka. C'est quoi la Tzedaka? Les gens croient que la Tzedaka, c'est la charité. Ça n'a aucun rapport. La Tzedaka, c'est une juste redistribution des avantages. Par exemple, imagine-toi, t'as mangé. T'as mangé. Voilà, ce soir, t'as bien mangé. Maintenant, tu as bien mangé et il te reste 2 assiettes. Elles sont là sur la table. Elles sont chaudes, elles ne sont pas touchées. Et en face de toi, il y a un type qui n'a pas mangé. Il crève la dalle. Il te regarde comme ça. Toi, tu es bourré. Dis, écoute, j'ai plus faim. Je peux pas les remanger. Je vais vomir. Il me reste 2 assiettes. Et l'autre, il crève la dalle. Il y a un réflexe naturel de dire, bah, écoutez, si vous avez faim, prenez les assiettes. Comprenez ça? C'est ça la Tzedaka. La Tzedaka, c'est qu'il y a un sentiment qui est que quand moi je n'ai pas, c'est pas normal. Et il y a un sentiment qui est que quand moi j'ai trop, c'est pas normal. Mais ça, on a du mal à le comprendre. Nous, on dit, moi si j'ai trop, oh là, je vais faire des 6 caves, je vais faire des placements, je vais acheter une 4e maison. On se dit pas, mais pourquoi j'ai trop? Réfléchis. Si je vous disais un truc incroyable, c'est aussi anormal de ne pas avoir que d'avoir trop. De ne pas avoir assez, c'est pas normal. Et chacun le comprend, ça. La preuve, c'est qu'on trouve que les autres, ils ont trop. Et ben, d'avoir trop, c'est pas normal. Si quelqu'un, il est honnête, il sait que s'il a en trop, c'est pas normal. Vous savez, j'ai beaucoup de gens, ils me disent, oh, j'aimerais bien gagner au loto. Faites-moi une bracha pour que je gagne au loto. Je dis, d'accord, mais comment vous allez justifier cet argent devant Dieu? Comprenez ou non? Tu gagnes d'un seul coup, par exemple, 30 ou 40 ou 50 millions de francs lourds. D'accord? Pour l'instant, tu vis avec 15 000 francs. Tu trouverais 40 millions de francs lourds. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas dire, oh, il y a beaucoup de choses à faire. Attends, excuse-moi. Faut justifier cet argent. Là, tu avais 15 000 francs pour vivre. Qu'est-ce que tu fais 40 millions de francs en plus pour vivre? Mais tu dis, je vais mettre du marbre au plafond. Je vais mettre des fenêtres en or. Je parle de vivre. Je vais mettre un carburateur en platine. Mais pour vivre, je sais pas. Eh ben tu sais pas. Sache une chose, tout ce qui est superflu dans ce monde-ci, ça vient du Olamaba. Tout ce qui est superflu dans ce monde-ci, ça vient du Olamaba. Vous savez pourquoi? C'est Olamaba. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez comment est-ce qu'on fabrique du Olamaba avec du Olamazé? Tout ce qui est, regardez bien, tout ce qui est superflu dans la matière, c'est de l'antimatière. Mais tout ce qui est superflu dans la matière, c'est de l'antimatière. Parce que comment on a trouvé de mettre du plus là où il y avait juste? C'est que ça vient d'un endroit où il y a des réserves. Mais ce moment-ci, tout est compté. Au micron près. C'est les scientifiques qui l'ont dit. Hein. L'équilibre de la nature, il est calculé au micron. Pas genre en gros, les molécules. Les phénomènes. Je sais pas moi, l'oxygène, l'hydrogène. L'électricité statique dans l'air. Tout ça, c'est très très précis. Tu peux pas dire d'un seul coup, tiens, il y a 11 milliards de tonnes d'électricité qui sont rentrées. Ah non, tu fais sauter toute la planète. C'est très précis. Alors d'où vient le plus? Il vient du trou noir, à Bataille. Il vient du... Comment ils disent maintenant? Comment ils appellent ça, le deuxième univers, là? Hein? Non, l'autre. Ah, c'est le cinquième élément. Comment ça s'appelle, mince? Ils ont dit que l'univers, il existe en antimatière. Attendez, faut sortir, là. En antimatière, le deuxième. Le même univers, il existe en antimatière. Comment ça s'appelle, ça? J'ai oublié. Il faut que je relise les sciences et vie, parce que je perds mon... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la tzedaka, c'est un sentiment naturel que malheureusement, il faut un peu travailler. Mais en vérité, si quelqu'un, il est honnête avec lui-même, il n'y a pas plus naturel que de ressentir un besoin quand tu manques, et il n'y a pas plus naturel de combler un besoin chez l'autre qui manque. C'est normal. Regardez, toi tu travailles par exemple. Quand tu donnes à manger à tes enfants, tu es content, tu sais pourquoi? Parce que toi tu as et l'autre il a besoin. Qu'est-ce qui tue si l'autre il a besoin et t'as pas, tu meurs. Si tes enfants ils ont faim, et que t'as pas de quoi leur donner, tu crèves. Tu dis mangez mon bras, mais mangez quelque chose, tu crèves. Pourquoi? Parce que là il y a un manque et là il y a un besoin. La tzedaka c'est quoi? C'est de remettre le besoin à la hauteur du manque. Tzedaka, tu rétablis l'équilibre. Dieu, il a créé un déséquilibre voulu. Il a fait un manque chez l'un et il a fait un plus chez l'autre. Pourquoi faire? Pour développer la sensibilité et pour que toi, tu artificiellement, tu recrées l'équilibre. Il y a un gars, il a demandé à Rabbi Akiba, si Dieu, il aime tellement les pauvres, pourquoi il les a fait pauvres, il a dit qu'il allait les faire riches? Rabbi Akiba, il a dit, les pauvres, ils ont été créés pour sauver les riches de l'enfer. On ne comprend pas ça, nous. Nous, on dit, mais moi, j'ai de l'argent, moi, j'ai travaillé, j'ai sué, et maintenant, je te fais un honneur de te donner. Ah bon? Mais s'il n'y avait personne à qui donner, comment tu justifierais tout cet argent? Vous n'avez pas remarqué que les gens, quand ils ont trop d'argent, ils deviennent vicieux? Parce qu'ils s'ennuient. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les mêmes kiffs, ils peuvent les avoir que vous gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec les milliards? Du vice. Parce que là, il faut payer, là. C'est comme ça. La tzedaka, c'est un sentiment naturel de combler un manque. Il n'y a pas un plus grand kiff que de combler un manque. Nous, on ne comprend pas encore une fois, parce que nous, on dit, quelqu'un vient de gratter, tu dis, oh, il vient de gratter, encore une gratte, encore un ami qui me demande. Mais si quelqu'un, il a l'habitude de donner, et il arrive à combler ce manque, la brillance dans les yeux du ami, mais ça vaut un milliard, ça. Mais qui c'est qui gagne? C'est le riche, c'est pas le pauvre. Le pauvre, il a eu ce qu'il avait besoin. Mais le riche, il a eu ce kiff de combler un manque. C'est un grand kiff. Ton enfant, il veut, tu donnes. Quelqu'un, il a une question, tu donnes une réponse. Parce que la hanout et la chirout, la pauvreté et la richesse, c'est pas toujours l'argent. Par exemple, toi, tu as un potentiel de joie. Lui, il a un manque de joie. Tu es riche de joie, il est pauvre de joie. Transfert. Tzedaka. Comprenez ou non? L'autre, il est instable. Toi, tu es stable. Transfert, stabilité. L'autre, il est mal dans sa peau, toi, tu es bien dans ta peau. Transfert, assurance. L'autre, il n'a pas de motivation, ça t'a de la motivation. Transfert, motivation. Ça aussi, c'est la tzedaka. C'est pour ça que l'agmara a dit la tzedaka, c'est pas forcément avec l'argent. Ça, c'est bégoufo avec le corps. Bidibouro avec la parole. Tu remontes le moral à quelqu'un, c'est de la tzedaka. Tu dis, manqué, ça ne m'a rien coûté. Bien sûr que ça coûte. Pourquoi ce moral, tu ne pouvais pas l'utiliser pour toi? Dis-moi la motivation dans la force de vente. Ça se paye. Donc si cette même motivation, au lieu de l'utiliser pour vendre encore 4 pavillons, tu l'as utilisée pour remonter le moral de quelqu'un, tu lui as donné quelque chose qui est quantifiable en valeur pure. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire parce que nous, on dit, oh, moi, j'ai de la force, j'ai de la pêche. Mais il y a des gens qui quantifient. Vous asseyez devant eux, vous parlez un quart d'heure, vous sortez, il y a une facture qui s'établit en même temps que vous sortez, ça te coûte 10 000 francs. C'est pas possible. Oh, monsieur, 10 000 francs. Consultant, ça s'appelle. Avant, ça s'écrivait en deux mots, mais depuis qu'ils ont éliminé les califs. Ouais. C'est comme ça. Si vous comprenez ça, c'est un truc incroyable. Tzedaka, c'est le fait que quelqu'un, en vérité, il arrive à recréer un déséquilibre, à rééquilibrer un déséquilibre. Mais là où il faut être honnête, c'est qu'il y a un déséquilibre chez le pauvre et il y a un déséquilibre chez le riche. Et si le pauvre, il dit « Ah, j'ai plus faim », ouais, le riche, il dit « J'ai compris pourquoi j'avais de l'argent ». Et ça, c'est très, très important. Si je vous dis que moi, j'ai connu des gens très riches, que malheureusement, ils ont baissé de leur argent, ils ont perdu de leur parnassa. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit « Moi, la Bentley, je la regrette pas. La Lamborghini, je la regrette pas. L'hôtel particulier dans le 17e, 19 chambres, je le regrette pas. L'avion privé, je le regrette pas. Les vacances sur une île déserte, louée à 10 000 dollars la journée, je regrette pas. » Il a dit « Mais la tzedaka, je regrette. » Il a dit le kiff, que le type il a besoin. Et moi j'ai, il a dit « Ça n'existe pas dans le monde ça. » Comprenez ou non ? Ça n'existe pas. Comment s'appelle ça tzedaka ? Comment s'appelle aussi shlemout, entité ? Comment s'appelle ça emet ? Parce que nous, malheureusement, encore une fois, on n'est pas assez riche pour pouvoir se payer le luxe de combler ce manque-là. Mais si on comprend qu'en vérité, la tzedaka, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de somme, mais que toi, tu as compris que l'autre, il a besoin, et que toi, que tu as, même à 100 balles, ça peut se faire ça. Même à 100 francs. Qu'est-ce que j'ai fait en vérité ? J'ai rétabli un ordre. Lui, il a un manque. Moi, j'ai un moyen. Je rétablis l'ordre. C'est rien du tout. Et ça, c'est la notion de tzedaka qui est liée avec l'unité et qui est liée avec la réalité. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre. J'ai un déséquilibre. Moi, j'ai trop à manger. L'autre, il n'a pas à manger. Je remets les choses en place. Celui qui se perpétue dans le temps et dans l'espace, il ne supporte pas le déséquilibre. Donc, qu'est-ce qu'il fait perpétuellement ? Il comble le déséquilibre. Maintenant, si quelqu'un il a cette notion-là, alors il va pas aussi, il va haïr aussi le gaspillage. Par exemple, il y a des gens qui sont très conservateurs. Par exemple, il y en a, ils ont un appareil électrique qui ne marche plus. Ils jettent l'appareil, ils gardent la prise. Pourquoi ? Il dit parce qu'un jour, j'aurai un appareil qui marche, mais il n'y aura pas de prise. Alors ils ont un kiff. Et effectivement, 8 ans après, ils ont un appareil, il manque la prise. Il dit, tu vois, regarde. C'est beau, hein. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il va faire avec les 13 frigos qu'il a gardés pendant 8 ans ? Mais si quelqu'un, il essaye de comprendre que où est le malaise ? Parce qu'il a, jeté le frigo il y a 8 ans et il a eu besoin de la prise 8 ans après. Mais si le jour où il avait jeté le frigo, il avait besoin de la prise, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Oh, super ! Oui ou non ? Eh bien, ça, c'est la bracha et ça, c'est la klala. C'est quoi la bracha ? La bracha, c'est que quand tu as besoin de quelque chose, tu le trouves devant toi. Et la klala, c'est quoi ? C'est que quand tu as besoin de quelque chose, regardez bien, c'est très vicieux, tu le trouves trop tard. Si tu le trouves pas, tu dis c'est pas mon mazal, mais tu le trouves trop tard. Ramba. Oui, c'est comme ça. Tu dis, par exemple, regardez les enfants, quand on est jeune, c'est là qu'on les a. Et quand on est prêt à les éduquer, c'est là qu'ils se marient. Tu dis mince. Quand on n'est pas mature, on les a. Et quand on devient mature, ils sont plus là. C'est idiot, non ? Petit décalage. Comme un couple. Quand tu es prêt à faire des efforts, l'autre il est plus prêt à en faire. Et quand l'autre il a compris qu'il est prêt à en faire, toi t'es plus prêt à en faire. Décalage, rien du tout. Quand t'avais pas d'argent, les appartements ils coûtaient 9 millions. Maintenant que t'as 9 millions, les appartements ils coûtent 900 000 francs. C'est comme ça. Tu dis basse. C'est pas possible. T'as côtoyé un type pendant des années, il était vendeur chez toi. Ouais. Tu lui donnais 8, 9 000, tu discutais à chaque fois, à la fin tu lui dis, casse-toi, t'es exigeant. Il est parti, il a créé une boîte la plus grosse du monde. Tu dis, mince, pourquoi je ne l'ai pas gardé ? J'aurais dû lui donner 18 000, 20 000, 30 000. Maintenant il est coté en bourse. Et toi, tu as déposé le bilan. Décalage. Vous savez comment ça s'appelle ça ? Le gaspillage. Rappelez-vous de ça. Le gaspillage, ce n'est pas de jeter. Le gaspillage, c'est que tu ne peux plus faire le lien entre les deux morceaux parce que ou c'est trop tard ou c'est trop tôt. C'est ça le gaspillage. C'est incroyable. C'est pour ça que ça fait mal. Comprenez ou non ? Si quelqu'un vous dit, tiens, je te ramène, un pare-choc d'une voiture qui n'a jamais été construite, ça t'angoisse pas. Mais si on te ramène un pare-choc, tu dis, mais peut-être un jour j'aurai le reste, là tu sens la notion du gaspillage. Or donc le gaspillage, c'est aussi lié au fait que les choses ne sont pas complètes. C'est du gaspillage. Tu vois un couple par exemple qui divorce, mais tu vois que c'est pour des bêtises. Tu dis, quel gaspillage. Oh là là. Déjà de se marier, c'est pas évident. D'accord? Avec célibat, bien nara, c'est... Après le sida, je crois que c'est la deuxième maladie. D'accord? Après, enfin, soyez pas pessimiste, mais... Ouais, après, les gens, ils arrivent à se marier. Après qu'ils se marient, ils se déchirent. Après, t'as les gens qui divorcent pour rien. Ouais, pour des bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème de maturité ou ils ont un problème d'orgueil qui est mal géré. Et après, qu'ils comprennent et qu'ils truquent, ils commencent à réfléchir, ils disent, oh là là, en fin de compte. Après le troisième mariage, en fin de compte, ils disent, le premier, c'est le meilleur. Comme des gens, ils font 34 chidours, après ils disent, en fin de compte, la première, c'était la meilleure. Mais à l'époque, tu dis, ah, on se marie pas comme ça. Ouais, d'accord, 34. C'est quoi? Gaspillage. Gaspillage! Parce qu'il y a un moment, faut dire, je suis là! T'as la question, t'as la réponse. Émet. T'as un besoin, t'as les moyens. Émet. T'as un problème, t'as une solution. Émet. T'as un problème, t'as pas de solution? La mort. Vous savez ce qui tue? Vous voulez que je vous dise ce qui tue? Le doute. Un vrai bonheur, ça fait du bien. Un vrai malheur, ça fait du bien. Je rigole pas. Mais un doute, ça tue. Mais qu'est-ce qui tue plus que le doute? Perpétuer le doute. Ça, ça peut te bouffer. Ça. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de communication. Ils préféraient qu'on leur foute des baffes. Au moins, c'est clair. Il n'y a pas de communication. Ah, ils ne savent pas. Ils sont là. Il est bien, il est mal, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il y a un patron avec un employé. C'est jamais le patron, je suis content, je ne suis pas content. Jamais. L'autre dit, c'est vrai, c'est... il crève du doute. Quelqu'un, il a 30 000 francs d'amende. Il ne sait pas. Un jour, ça va tomber, ça ne va pas tomber. Il vaut mieux qu'il les paye. Parce que 30 000 francs, il les paye d'un coup. La dépression, elle va lui coûter 3-4 ans. Alors, il vaut mieux qu'il paye. C'est quoi le gaspillage? C'est quand tu ne fais pas les liens entre les choses. C'est du gaspillage. Comme l'injustice, parce que tu ne fais pas le lien entre les choses. Regardez, un enfant, il fait une bêtise. Si tu l'attrapes sur place, tu lui tires l'oreille, tu lui mets une claque. Il dit rien, il dit bon. Si tu attends 15 jours, tu lui mets une baffe. Qu'est-ce qu'il fait? Une rébellion. Pourtant, c'est la même chose. Aujourd'hui, il a piqué un pot de confiture. Sur place, la main dans le sac, tu l'attrapes. Tu dis, qu'est-ce que ça fait là? Il accepte, il dit, d'accord, papa. Excuse-moi. Je suis modé, d'accord. Tu dis rien, tu as vu qu'il a pris la confiture, t'as rien. T'as 3 semaines, t'attends. Il rentre de l'école, ça va David? Ouais, ça va. Viens ici. Viens. Quoi? Pourquoi? Rien? Pourquoi? Il mérite, non? Je vais dire mieux, même si tu lui dis et tu lui expliques et qu'il reconnaît à l'intérieur de lui, il va garder. Il va dire, c'est injuste. Pourquoi? C'est juste? Non, c'est très simple. C'est un problème culturel. L'injustice, c'est un problème culturel. C'est que tu ne fais plus le lien entre la cause et la conséquence. Et comme on s'habitue à la tricherie, même quand on triche et qu'on s'y habitue, on a le statut du bonheur de la tricherie. Donc on n'est plus prêt à le remettre en cause, même si on sait foncièrement qu'on a tort. Ça s'appelle la désagréable impression d'avoir à se remettre en cause. Et c'est un problème de quoi? D'injustice. Qui est lié à quoi? Au fait que les deux morceaux, qui sont la bêtise et la punition, ont été décollés. Mais si on met les deux... Ça va très bien. Vous comprenez ou non? Jamais un type, il refuse de payer sa dette quand il a en face de lui la personne qu'il a empruntée, dans la mesure où il est encore capable de s'en rappeler. Jamais un type qui a fait une vraie crasse, il s'énerve quand il lui arrive une derba, s'il sait qu'il se rappelle de la crasse. Chacun dans sa tête, il sait très bien où il en est. Vous comprenez ou non? Nous, toujours, on peut se dire, oh le pauvre, oh le pauvre, oh le pauvre. Mais lui, il sait très bien, lui. Il sait très bien ce qu'il a fait, lui. Comprenez ou non? Est-ce que vous me suivez? Moi j'adore les gens, ils se révoltent. Pourquoi? Oh mon vieux, faut réfléchir dans la vie. Hein. Faut réfléchir. Un type, il a fait adultère ou il a fait inceste. Ou... Comment il dort la nuit? Il ne faut pas qu'il dorme parce qu'il va, prendre quelque chose dans la figure. Il va se faire manger la bouche par un chien celui-là. Comprenez ou non? Il va lui arriver quelque chose, c'est sûr. Donc il ne dort pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'il sait, même s'il n'est pas religieux, qu'un jour ou l'autre, ça va lui tomber sur la tronche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a un sentiment de émettre à l'intérieur de lui, même s'il n'est pas religieux. Comme il a un sentiment d'injustice, il a un sentiment de justice. C'est quoi la justice? C'est qu'un jour ou l'autre, les morceaux, ils se recollent. La punition, elle te rattrape. Pourquoi? Parce que la signature de Dieu, c'est émettre. Et le émettre, c'est que les morceaux vont ensemble. Donc la punition et la bêtise, elles se retrouvent un jour. Quand vous jetez un aimant dans un sac, au bout d'un moment, l'aimant, il va attraper les aiguilles. Ça va prendre du temps. Tu remues le sac, mais un jour, l'aimant, il va attraper les aiguilles. Et bien un jour, ça va se terminer, c'est tout. Il faut être patient, c'est tout. Qu'est-ce que c'est la justice maintenant? C'est la patience. Qu'est-ce que c'est l'injustice? L'impatience. Pourquoi on s'énerve avec Dieu? Il faut être patient. Il suffit d'être patient. Mais laisse-le faire, il sait ce qu'il fait. Pourquoi tu t'énerves avec ton père? Parce que tu comprends pas. Après des fois, 10 ans après la mort de ton père, tu as compris ce qu'il avait fait ton père. Par exemple, souvent, il faut avoir des enfants pour comprendre comment nos parents se sont conduits avec nous. Donc tu te rends compte la patience qu'il faut. C'est pour ça que la Torah a donné loi Kibbutz-Avaim. Chiacha. Or si déjà tu as mis 15 ans pour comprendre pourquoi tes parents ils se sont conduits comme ça avec toi. Et encore, ça c'est pour les gens qui se marient tôt. Ouais, mais combien de temps il va falloir attendre pour comprendre ce que Dieu il attendait de toi et ce qu'il t'a fait? Ça prend du temps. Cette patience-là s'appelle la justice. Et cette impatience s'appelle l'injustice. Maintenant, moi j'ai une question plus profonde. Quand je me rebelle, c'est parce que je suis pressé de connaître la solution ou parce que je refuse déjà la solution que j'envisage? Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, ouais, et qu'il a tort, vous savez ce qu'il dit? Il dit, oh, de toute façon, je sais où tu veux en venir. Pourquoi il dit ça? Il devrait dire au contraire, je ne sais pas où tu veux en venir. Donc ça veut dire qu'en vérité, c'est même pas la peine de parler, il sait très bien ce qu'il y a le problème. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, le père et l'enfant. Pourquoi un enfant, il n'ose pas répondre à son père? Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que le père sait. Or, dans une relation, il y a toujours un côté père et un côté enfant. Par exemple, toi, tu as emprunté de l'argent. Tu n'as pas rendu. À chaque fois que tu le vois, c'est pas que l'autre, il te dit quelque chose, il te regarde. C'est ta conscience qui dit, mais je lui donne de l'argent. Toi. Donc, toi, tu deviens agressif envers lui, simplement par le fait qu'en existant, il te rappelle ta dette. Là, tu dis, mais j'ai rien fait, moi. Je t'ai rien dit, je t'ai pas parlé. Non, mais je vais te rendre, attends, je vais manger, écoute, je suis sérieux en ce moment. Bon, ben, me regarde pas comme ça. Mais je t'ai rien fait, moi. Je t'ai même pas vu, je t'ai même pas reconnu. Depuis que t'as mis un chapeau, je t'ai même pas reconnu. C'est sa conscience à lui. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le manque est là, le manque est là. Et quand le manque est comblé, il y a émet, il y a réalité, il y a vérité, il y a perpétuité, il y a équilibre. Tous ces éléments-là, maintenant, ils sont... C'est des vecteurs qui s'inscrivent les uns dans les autres. Donc automatiquement, il y a la haine du gaspillage. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme vous dites, tu vois cet élève-là, avec un bon professeur, il aurait été une bombe. Tu vois ce, regarde bien, tu vois ce professeur avec une bonne classe, il aurait été une bombe. C'est du gaspillage. C'est comme quand tu prends un poste avec une prise et tu le branches et tu entends la musique. C'est un miracle. C'est pourquoi? Parce que ce poste, tu aurais pu le brancher dans un bloc de margarine. Tu dis, mais c'est complètement idiot. C'est pas idiot. Mais c'est fondamental, essayer de comprendre. Les trois quarts des gens qui n'ont pas le courant continu, c'est parce qu'ils mettent la prise à côté de la prise. Donc ils mettent la prise dans la margarine, rabotaille. Les trois quarts des temps, on met la prise dans la margarine. T'as un problème de communication? Ben explique-toi. T'as fait une gaffe? Ben excuse-toi. T'as un problème avec quelqu'un? Ben mets-toi au clair, pourquoi t'arrives pas? Parce que tu dis, moi je ne mets pas la prise, moi. Moi je veux pas la confrontation. Moi, je veux pas la remise en cause. Moi, je veux pas prendre le risque d'avoir tort. Moi, je veux pas être obligé de faire un pas en avant. Moi, je veux pas chercher le compromis. Moi, je veux pas casser mon orgueil. Donc, tu veux pas mettre la prise. C'est idiot. Tu veux pas mettre la prise. La prise se sacrifie au profit du mur. Le mur se sacrifie au profit de la prise. Ça s'appelle le compromis. Déjà, ils veulent pas faire de compromis. Qu'est-ce qui se passe? Gaspillage. Parce que le jour où il n'y a plus de prise, toi, tu as ton poste. Ça ne sert à rien. Et toi, la prise, s'il n'y a plus de poste, tu ne sers à rien. C'est complètement idiot. Donc, il n'y a pas plus beau que rejoindre les morceaux. Il n'y a pas plus moche que le décaler les morceaux. Comment s'appelle ça? Que Akadosh Baruch Hu, il est Ohev et Hametziut. Dieu, il aime la réalité. Et c'est ce qui se crée tous les jours. Donc quand Dieu il crée une réalité qui s'appelle que la pluie elle tombe sur les champs, ça pousse. Que la graine elle sort la fleur, ça pousse. Que la vache elle mange tous les jours, ça pousse. Ça s'appelle le émet de Dieu. Nous aussi on doit participer au émet. Moi j'ai emprunté, je rends. Moi je vends, je triche pas. Moi j'embrouille pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire la même chose que Dieu, sauf que Dieu il le fait au niveau universel et moi je le fais au niveau personnel, au niveau ponctuel. Vous savez, quand on fait du business, il faut que tout le monde gagne. Il faut que tout le monde gagne. Ça ne sert à rien. Que toi, tu fais du 200% et l'autre, il s'angoisse, il dit « il m'a roulé dans la farine ». Pourquoi il m'a pourri la vie? Qu'est-ce que ça peut te faire? Fais un 25, fais un 30. Pourquoi tu fais du 6, tu fais du 8, tu fais du 40 pour que le type, en sortant de chez toi, il rentre chez ton copain et l'autre, il dit « la robe, elle vaut pas 890 francs, elle vaut 13 francs oh, ». T'es comme ça, t'es mort. Je dis, mais pourquoi il m'a fait ça? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais de toute façon, il a 1000 clients, il va gagner. Pourquoi il m'a fait ça? Regardez bien. Le client, il est mal à l'aise. Mais un jour, le vendeur, il sera mal à l'aise. Vous savez combien il y a de vendeurs qui font de la dépression? Vous savez où? La pub et les placements. Parce que la pub et les placements, c'est là où il y a la plus grosse quantité de magouilles. Mais au bout d'un moment, à force de vendre de la magouille, t'es malade. Tu rentres devant la personne qui est nia comme ça, qui... Tu crées la confiance et tu trompes la confiance. Et toute la journée, tu crées la confiance, tu trompes la confiance. Tu crées la confiance, tu trompes la confiance. À la fin, tu te sens mal. Tu te sens devant les chambres à gaz avec les enfants à l'intérieur. Exactement pareil. Parce que t'es un pourri. Vous savez combien de vendeurs déprimés j'ai soigné, moi? Et c'est pas mon métier. J'imagine les gens que c'est leur métier, comment ils doivent faire. C'est normal. Tu peux pas vivre ta vie avec le sentiment d'injustice que toi, tu perpétues. Donc, subir une injustice, ça fait mal. Oui, créer une injustice, ça fait mal. Comment s'appelle ça? Arzariut, cruauté. Avel, triche. Mishpat, jugement. Tzedaka, justice. Tout ça, c'est marqué. Exactement ce qu'il a dit le Sforno. Que quoi? Que Akjboukhou, il a créé le monde sur un modèle. Et lui, automatiquement, en créant ce modèle, il a imprégné ce modèle de son existence. Alors nous aussi, on doit participer à ce modèle. Alors venez, on va essayer de comprendre maintenant. Dans quelle mesure est-ce que moi, j'ai une obligation de participer à ce modèle? Regardez bien. Ce qu'on appelle la sérénité, et maintenant vous allez comprendre le lien avec tout ce qu'on a vu maintenant. La sérénité, qu'est-ce que c'est en fin de compte? La sérénité, c'est une perpétuité d'existence. Bah, au Hachem, tout le monde existe. Mais le problème, c'est qu'on n'existe pas au même rythme et on n'existe pas avec la même intensité. Par exemple, je vous ai dit, un homme, il contient un potentiel et ce potentiel, il le réalise dans le monde. Maintenant, le fluide de l'existence, il devrait être perpétuel. Par exemple, vous avez un robinet. Quand vous ouvrez le robinet, il y a un débit, disons, d'un litre et demi par minute. Ça coule. Normalement, la vie, ça va être comme ça. Mais c'est pas toujours comme ça, la vie. Des fois, c'est haute pression. Des fois, c'est basse pression. Des fois, c'est de petites gouttes. Des fois, c'est un grand jet. Des fois, ça explose. Des fois, ça implose. Les tentatives d'existence ne sont pas toujours fructueuses. Par exemple, un enfant, il voudrait exister. Moi, mon travail, c'est de l'encourager à exister. Mais des fois, quand je suis pas content de ses tentatives d'existence, je refoule ses tentatives d'existence. Et lui, au lieu de exister, il va, ça n'existe pas le mot, il va inister. Il existe à l'intérieur. Par exemple, c'est connu qu'un enfant rêveur, c'est un enfant qui n'a pas assez confiance en lui pour se réaliser physiquement. Or, puisqu'il ne peut pas être le héros de la réalité, il va être le héros de la fiction. On leur dit que c'est un enfant rêveur. Or, un enfant rêveur fait souvent un adulte menteur. Parce qu'un adulte qui n'arrive pas à se réaliser dans son rôle d'adulte, comme il est de toute façon adulte, il n'arrive pas à être adulte, il est obligé de jouer le rôle de l'adulte. Ça fait un menteur. Pas un menteur, menteur. Un menteur, c'est quelqu'un qui est en décalage entre son désir d'existence et les moyens qu'il se donne pour y arriver. C'est un menteur. Il préfère la fiction que la réalité. Il préfère arrondir les angles que d'assumer la réalité telle qu'elle est. C'est un menteur. Pourquoi? Parce que justement, dans ses tentatives d'existence, le fluide, il n'est pas perpétuel. Deuxièmement, c'est difficile d'avoir un fluide qui est perpétuel puisqu'on est agressé par la réalité. C'est vachement dur. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si quelqu'un, je lui mets 8 baffes, après je lui dis, alors qu'est-ce que t'en penses? C'est de quoi? Alors, selon la solidité de la personne, parce que vous savez une chose incroyable. Hier, je fais un cours sur l'épreuve, d'accord ? Bon, le cours, vous avez tous compris. Maintenant, je vais vous rajouter un petit élément sur hier. Il n'y a pas des grandes épreuves, des petites épreuves. Il y a des personnes fortes et des personnes faibles. Une personne faible, elle a des grandes épreuves. Une personne forte, elle a des petites épreuves. Ça vous dit quelque chose, ça, ou non ? C'est bizarre, non ? Est-ce que vous comprenez ? Non ! Il y a des gens, par exemple, il y a des gens, ils ont le cancer. Et ils ont une pêche du tonnerre. D'accord ? Il y a des gens, ils ont un rhume, ils sont déprimés. Ça s'appelle la relativité. C'est bizarre. Qu'est-ce que t'as ? Tu dis, je suis pas bien en ce moment. Pourquoi ? Je suis pas bien, j'ai pas envie de vivre, j'ai envie de mourir. Pourquoi ? Il pleut. Et l'autre, il dit, toi ? Il dit, ben voilà, moi j'ai perdu un proche, là, je sors du cimetière. Ma femme m'annonce qu'elle s'en va et je vais t'amputer des deux jambes. Mais je m'en. Je vais me battre, je vais ramasser tout ça, je vais récupérer le monde entier. Écoutez, alors là. Écoutez, je comprends pas. Là. C'est relatif. Tout est relatif. Il y a des personnes fortes et des personnes faibles. La vraie question, c'est pas de savoir si l'épreuve est grande ou petite. La vraie question, c'est est-ce que moi, je vais renforcer ma personne pour assumer l'épreuve ? Regardez bien. Ou je vais développer mon fantasme pour diminuer l'épreuve ? De toute façon, l'épreuve, elle est ce qu'elle est. Ça sert à rien. Comprenez ou non ? Ça s'appelle l'autruche. Il y a une épreuve, il n'y a pas d'autre preuve. La méthode Coué. Tout va bien, 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 tout va bien. Comment vous appelez ? Huissier. Qu'est-ce que vous faites ? Je prends la maison. Bon. Allez, tout allait bien. Méthode Coué. T'es idiot. T'as un problème, t'as une solution. Tu dis, mais je suis pas à la hauteur de la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire ? De la musculation. Il faut se muscler. Tu te muscles le corps, tu te muscles le psychique, tu te muscles les midotes. C'est comme ça. C'est comme dans la médecine. Aucune maladie n'est dangereuse. C'est le terrain qui est faible. Mais si le terrain est fort, la maladie n'est pas dangereuse. Il y a des gens qui peuvent porter un virus pendant 20 ans. Aucun problème. L'autre, une demi-seconde, il est mort. Pourquoi ? Parce que le virus, il pénètre. Dites-moi, est-ce qu'on peut faire pousser des orties sur du granit ? Non. Pourquoi ? Ça passe pas. Mais si la terre, elle est meuble, tout pousse. Il faut décider où tu es en granit, où tu es en terre fragile. Vous comprenez ça ? C'est ce qu'il dit Rav Dessler en deux mots quand il dit « Il ne faut pas soigner la maladie, il faut soigner le malade. » Nous, la médecine, aujourd'hui, on soigne la maladie. En Baruch HaShem, on arrive à créer des nouvelles maladies hyper fortes. Parce qu'on soigne la maladie. Il faut soigner le malade. C'est pas une blague. Ils ont dit qu'à cause des antibiotiques, ils ont créé des virus mutants qui n'arrivent plus à contrôler. C'est balèze, non ? C'est fort, hein ? Ça a pour nous. À ta la recherche. Imagine-toi s'ils avaient fait le contraire. Parce que je m'adresse à une personne, je ne m'adresse pas à une maladie, je m'adresse à une personne. Donc quand je remonte la maladie, elle écrase la personne. Et quand je remonte la personne, elle repousse la maladie. C'est idiot, c'est un vase communicant. C'est juste par où tu regardes. Si c'est comme ça, nous on a un désir d'existence qui est perpétuel. Malheureusement, ce désir d'existence, il est confronté à la difficulté extérieure. Deuxièmement, à la sécurité intérieure. Alors comment on va faire ? C'est un relais. Rappelez-vous de ça. Un homme, il est fait en quatre parties. La neshama, le psychique, le physique, le vécu. Maintenant, l'impulsion, elle part de la neshama. Elle traverse le psychique, le nefesh, elle traverse le physique, le gouf, et elle arrive dans le vécu. Il faut qu'elle se réalise dans le vécu. Le problème, c'est est-ce que les relais sont compétents ? Quand l'impulsion d'existence, elle arrive au psychique, elle peut se perdre dans les méandres du psychique. Entre les complexes, les malaises, les incompréhensions, les douleurs, la mauvaise gestion de la sensibilité, ou l'écrasement intellectuel, ou l'hyperstructure intellectuelle. Il y a plein de méandres à l'intérieur du psychique dans lequel l'énergie de départ, elle peut se perdre. Après, cette énergie, elle rentre dans le physique. Mais elle peut se perdre dans le physique aussi. Parce que dans le physique, il y a le corps. J'aime pas mon corps. Il y a la flemme, il y a la fatigue, il y a la lourdeur. Il y a le confort, il y a l'appétit, il y a le désir, il y a le kiff. Il y a beaucoup de choses dans le physique. Donc cette énergie, elle peut se perdre aussi dans le physique. Pour arriver à la sortie, regardez un torrent de montagne. C'est un torrent de montagne. C'est impressionnant. Ben, la vie, ça devrait être comme un torrent de montagne. Pourquoi ? Il n'y a rien qui l'arrête. Tu dis, mais c'est pas toujours évident. Des fois, il y a des rochers. Ils passent. Des fois, il y a des arbres. Ils passent. C'est pareil. Toi, à l'intérieur, n'as pas un torrent de montagne, tu as une centrale nucléaire, la Neshama. Elle contient une énergie infinie. Le débit, il est de 3 milliards de volts seconde. Mais le problème, c'est qu'il traverse. Le relais, il est fatigué. Le psychique, il dit, à ouais, quoi ça sert? J'y arriverai pas. Pourquoi essayer ce qu'on n'a jamais tenté? Alors, automatiquement, l'énergie... Alors nous, qu'est-ce qui est notre travail? Notre travail, construire et gérer le relais psychique. Ça s'appelle le travail des midot. Le relais physique, ou shmartem et nafshotechem. Le relais vécu, shulchan aruch. Pour que l'énergie qui part de la neshama, elle puisse traverser le psychique sans perte, le psychique, le physique sans perte, et le vécu sans perte, le tzaddik. Il n'a pas d'écran psychique. Ça passe. Il n'a pas d'écran physique. La kedusha, c'est la distance avec la matière. La matière, c'est ce qui freine l'énergie. Pas de matière, pas de frein, pas de frein. Donc elle traverse le physique. Elle arrive dans le vécu, elle explose le monde. Le tzaddik, il est là, il est assis comme ça. Tu lui dis, Rav, il faut faire une yeshiva. Eh ben, il dit, bah, faites une yeshiva. Il dit, 9 millions de dollars. Eh ben, 9 millions de dollars. Il trouve 9 millions de dollars. Toi, tu dis, moi, je voudrais m'acheter un deux pièces à la grande motte. Oui. 157 000 francs. Oui. Combien? 20 ans. 20 ans pour un deux pièces à la grande motte que tu vas aller une fois tous les 3 ans jusqu'au divorce. Le tzaddik, 9 millions de dollars, 17 minutes d'attente. 17 minutes d'attente, le téléphone sonne, le milliardaire téléphone, j'ai mon maaser à donner, 9 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il dit le tzaddik? Baruch Hu Baruch Shemo, Amen, ça fait. C'est pas possible, c'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que son énergie, elle ne s'arrête pas. Son énergie, elle part de l'intérieur, elle ne s'arrête pas. Pourquoi on n'y arrive pas, nous? C'est pourquoi? Parce que nous, on est perdus dans les méandres. Alors nous, notre travail à nous, c'est de construire le psychique, de construire le physique pour qu'il n'y ait pas de coupure. Alors, la construction du physique, ça s'appelle Kedushim Tiyu, soyez saints, c'est un autre cours qu'on fera peut-être sur la distance qu'on doit entretenir avec la matière. Ça, c'est un truc. Maintenant, ce qu'on est en train de parler, c'est de la construction du psychique. C'est quoi la construction du psychique? C'est réussir à faire que l'énergie, elle part de l'intérieur. Elle arrive de l'extérieur, mais qu'elle sorte avec un débit régulier. Un débit régulier. Comment s'appelle le débit régulier? La sérénité. Alors, vous avez remarqué une chose. Il y a des gens qui sont sereins, il y a des gens qui ne le sont pas. Maintenant, il y a les faux sereins. Il y a les gens qui sont sereins quand on n'a pas besoin de l'être. Il y a des gens qui sont sereins, qui ne sont pas sereins quand il faudrait l'être. Il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à craindre. Il y a des gens qui sont sereins quand on a besoin d'être serein. Par exemple, vous savez la différence entre les faux businessmen et les vrais businessmen? Quelle différence? Vous savez la différence? C'est très simple. Dans un business, il y a plusieurs étapes. Il y a le client, il y a le transport, il y a le financement, il y a le fabricant, il y a le distributeur. C'est facile. Maintenant, en vérité, dans le business, le fabricant, il n'a pas besoin de toi, il fait son métier. Le transporteur, il n'a pas besoin de toi, il fait ton métier, il fait son métier. Le distributeur, il n'a pas besoin de toi, il fait son métier. Le banquier, il n'a pas besoin de toi, il fait son métier. Alors, quelle différence? C'est qu'il y a un moment dans le business où il y a un côté aléatoire. C'est là que tu interviens, toi. Le fabricant, il peut avoir un problème avec la douane. C'est là que tu dois venir. Le transporteur, il peut avoir un problème de gestion. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, tu dois être là. C'est là où on a besoin de toi que tu as besoin d'être là. C'est quoi les mauvais businessmen? Eux, ils vérifient le transport. Mais ils marchent. Ils vérifient le financement. Mais c'est une banque. Ils vérifient la fabrication. Mais ils ont un responsable de qualité. Et au moment où il y a le problème, ils perdent leurs moyens. Ah non, 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 moi j'ai déjà donné, je me suis éclaté de la santé pour suivre. Moi, tu t'es tué là, on n'avait pas besoin de toi. Et maintenant qu'on a besoin de toi, tu n'es plus là. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, il y a un type... Il faisait fabriquer des chemises au Vietnam. Il avait les achats des centrales d'achat, prise unique, tout ça, ils lui ont acheté 150 000 chemises, c'est bon. Il fait fabriquer au Vietnam les chemises. Manque de peau, ces imbéciles là-bas, à l'usine, Ils font aussi du faux. Mais lui, il n'a pas fait du faux, il a fait du vrai. Ils ont fait 150 000 chemises. Ils ont fait 949 999 chemises. Il manquait une pochette en plastique. Ils ont pris une pochette Lacoste. Ils ont mis la chemise dedans. Le douanier, il faut savoir qu'au Vietnam, les douaniers, c'est des militaires, mitrailleuses. Sur les 200 caisses, il ouvre une caisse. Dans cette caisse, il tire une chemise, Lacoste. Tu ne peux pas lui expliquer. Il est brel, il est plus mort que le mort qui va tuer. Vous comprenez? Il est brel mort. Il dit, il y a une chemise Lacoste. Tu dis, mais il y en a 149 990. Vous ne voyez pas que c'est une erreur? Il y a une chemise Lacoste. Maintenant, les caisses, elles sont en carton. Elles sont au port. Il pleut sur les caisses. Prise unique, il met 10 000 francs par journée de retard. Et l'autre, il est au milieu en train de crever, en train de mourir. Qu'est-ce qu'il doit faire normalement? Il doit prendre un avion qui va lui coûter 10 000 francs. Prendre une enveloppe avec 10 000 dollars ou 10 000 francs. Aller voir le douanier. Lui expliquer légalement qu'il doit prendre un cadeau pour emmener ses enfants en vacances. Et d'un seul coup, la chemise Lacoste, elle devient Lagardère. Et c'est bon, ça marche. Non, il s'affole. Qu'est-ce que je fais? L'usine qui téléphone. J'ai le retard. J'ai l'amant qui m'angoisse. Le transporteur. Et qu'est-ce qui se passe? Il engueule l'usine. Bouge-toi. Maintenant, c'est à toi. Maintenant, c'est à toi. 1, 2, 3, à toi. Il s'est fait du souci. Là, on n'avait pas besoin de lui. Et là, on a besoin de lui. Il ne fait pas de souci. Il est brel. Mais il réfléchit dans ta tête. Le transporteur, c'est son métier. Tu ne vas pas le faire à sa place. Le banquier, c'est son métier. Tu ne vas pas le faire à sa place. Le distributeur, c'est son métier. L'agence de courtage, c'est son métier. Tu dis, comment vous avez fait? Mais c'est mon métier, monsieur. Faites le vôtre. Faites le vôtre. Non. Ça, c'est un mauvais businessman. Pourquoi? Il n'a pas compris que la sérénité, c'est fait pour être utilisé là où ça bloque, pas là où ça bloque pas. Lui, le type, il existe, il assume. Il dit, moi, j'assume. Là où on n'a pas besoin de moi, j'assume. C'est comme si un type, il est père de famille, il n'est jamais à la maison. Tu dis, ah, pas de problème. Il assume. Il assume quoi? C'est quand on a un problème qu'on a besoin de toi, c'est pas quand on n'a pas de problème. La menoucha, c'est que ton être intérieur, il va tenter d'exister. Mais le monde extérieur, il va te poser des problèmes, il va te créer des nisyonotes. C'est ce qu'on a dit hier. Ces nisyonotes-là, pour toi, c'est des occasions d'exister. Mais pour exister, il faut que, regardez bien, le koar, il rencontre le poal. Il faut que le potentiel, il rencontre le réel. Le réel, c'est la question numéro 297. La réponse, c'est la réponse 297. Il faut que tu me donnes la réponse 297 à la réponse à la question 297. Je colle les morceaux et mets. Mais pour avoir le calme d'aller chercher la réponse 297 à la question 297, il faut de la sérénité. C'est quoi la sérénité? C'est pas la tranquillité, les gens ils confondent. Ils croient la sérénité, c'est la tranquillité. Non, c'est que au moment où l'épreuve se produit, tu maîtrises encore la machine. Tu lâches pas les cordes. Tu fais pas oh là là. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut la sérénité intellectuelle et la sérénité émotionnelle qui n'ont rien à voir. Parce que le cerveau, il est au service de la réflexion. Le cœur, il est au service de la sensibilité. Mais s'il n'y a pas contrôle de réflexion, t'es un idiot. Mais un idiot, c'est pas forcément quelqu'un qui a un QI bas. Ça, c'est aussi une grande erreur. Les gens croient que les gens intelligents, c'est les gens qui ont grand QI. Alors que c'est faux, regardez les oiseaux. QI. Ça. Et les gens croient que les imbéciles, c'est les gens qui ont un QI bas. C'est faux. Là, je vous donne une petite définition en plus. Vous pouvez la noter, elle est très importante. Dans la réflexion, il y a deux choses. Il y a les intérêts de la réflexion. D'accord? Oui ou non? Maintenant, les intérêts déforment la réflexion. La réflexion n'est vraie que quand elle est dénuée d'intérêt. Donc, l'intelligence, c'est la maîtrise des intérêts. Et la bêtise, c'est de subir les intérêts. Maintenant, on peut être très intelligent et dire des bêtises par intérêt. On peut être très idiot et dire des vérités parce qu'on lutte contre ses intérêts. Vous avez compris ça? Ça a l'air simple. Ça vaut bien 4 ans de fac. Réfléchissez, vous allez voir. Dans la vie, comment ça s'applique 1 milliard de fois. C'est pour ça que la Torah l'a dit, Veshochad yaver nechamim. Le pot de vin, oui, aveugle les yeux des sages. Ils ont les yeux et ils ont la sagesse, mais ils ont un paravent devant. Alors à quoi ça sert si tu as la lumière, si le paravent il est en amiante? Ça sert à rien la lumière. Comprenez ou non? La lumière c'est la même. c'est la taille du paravent qui fait la différence. Enfin, la taille de l'abat-jour. Alors décide-toi, ou tu enlèves l'abat-jour et tu vois la lumière, ou tu gardes l'abat-jour et il fait sombre. Alors si c'est comme ça, maintenant quelqu'un il doit atteindre la sérénité intellectuelle. On va commencer par celle-là. C'est quoi la sérénité intellectuelle? La sérénité intellectuelle, c'est qu'on ne meurt pas d'une question. Il y a énormément de gens qui peuvent perdre des années et des années à cause d'une question. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sereins. Vous allez me dire, mais s'ils avaient la réponse, ils seraient sereins. Mais non, parce que la sérénité, elle vient avant la réponse. C'est quoi? La sérénité, on l'a dit tout à l'heure, l'injustice, c'est l'impatience. Et bien, la sérénité aussi, c'est la patience. Par exemple, de comprendre qu'il y a des réponses qui mettent des années à venir. Ça s'appelle la sérénité. Il faut accepter, c'est la vie. Les gens, ils sont impatients. Non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Par exemple, les trois quarts des problèmes de rivalité parentale entre les parents et les enfants, c'est parce que les enfants ne veulent pas comprendre qu'il y a certaines questions auxquelles on répond en étant parent. Et la rivalité entre les parents et les enfants, c'est que les parents n'arrivent pas à comprendre que les enfants, quand ça fait 18 ans que tu ne leur changes plus les couches, ce ne sont plus des enfants. On a du mal. Parce que comme pendant un certain temps, on les assiste, donc on en fait des handicapés. Mais ça fait longtemps qu'ils marchent tout seuls. Alors on a du mal à s'habituer au fait que les enfants grandissent. Peut-être aussi parce qu'on a un peu peur de les laisser grandir. Ça donne l'impression qu'on ne pourra peut-être pas répondre à leurs questions. Donc c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, d'accepter avec sérénité la patience, et ben c'est ça la patience. C'est ça la sérénité. Pourquoi? Parce que je dis, j'ai une question. Eh bien, viendra la réponse. C'est pas grave. Il y a des gens, non, ils disent, tant que j'ai pas la réponse, bouge pas. C'est normal, c'est dommage. Ils ont une montre suisse et il y a un grain de sable. Ils sont bloqués. Ils attendent. Il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris, je comprends pas. Ils peuvent avoir une question sur Dieu, ils peuvent avoir une question sur l'autre, ils peuvent avoir une question sur leur père. Ils sont bloqués. La montre, elle fait tout, elle bloque. Au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, ils rencontrent un thérapeute ou un rabbin ou quelqu'un qui les aime ou quelqu'un qui les écoute, qui enlève le grain de sable et d'un seul coup, le mouvement suisse. C'est des gens qui sont des fois extrêmement équilibrés, mais ils sont bloqués sur un point. Ils sont bloqués. Ils disent, moi j'ai vu ça, je peux plus. Non, je peux plus. Je peux pas accepter. C'est trop, c'est impossible. Arrête. Parce que le fait que tu refuses la question, ça fait que tu peux pas aborder la réponse. C'est-à-dire que la sérénité, c'est d'accepter la question. C'est pas grave une question, c'est pas grave. Dans la vie, il y aura plein de questions, mon frère. C'est pas grave. Allez, avance. Non, je veux la réponse. Vous avez réveillé? Excusez-moi. Ouais. Comprenez ça? C'est comme ça. Si je vous dis un truc incroyable. Regardez. Une réponse. Regardez, attends, on va commencer par le début. Quelle différence entre une question et une réponse? C'est la différence? Il n'y en a pas. La question, c'est une formulation interrogative. La réponse, c'est une formulation affirmative. Mais en vérité, une question et une réponse, c'est pareil. C'est la même chose. Qu'est-ce qui est différent dans une question et une réponse? C'est le climat psychologique qui accompagne la question et le climat psychologique qui accompagne la réponse. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je pose une question à quelqu'un et je lui donne la réponse tout de suite, il ne sent pas tellement la différence entre la question et la réponse. Mais si je pose une bonne question à quelqu'un et je lui réponds 10 jours après, il va trouver ma réponse nulle. Vous savez pourquoi? Parce que entre-temps, sa question, elle est devenue un problème. Chez lui. C'est-à-dire qu'une question, ça vieillit mal. Pourquoi? Parce que moins on comprend, moins on a de réponses, plus on la prend mal. Plus on la prend mal, plus ça devient un problème. Maintenant, quand moi j'ai un problème, la réponse, elle n'a aucun intérêt. Parce que c'est plus une question que j'ai, c'est un problème. Donc quand, regardez bien attention, 1, 2, 3, quand je m'adresse à quelqu'un qui me pose une question, je dois toujours me demander si c'est une question qu'il a ou si c'est un problème qu'il a. Parce que si s'il a un problème, c'est une solution qu'il lui faut, c'est pas une réponse. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je lui donne une réponse. Alors lui, il me dit, t'as rien compris. Je dis, mais j'ai répondu à ta question. Il dit, mais c'est pas une question que j'ai, c'est un problème. Donc souvent, il faut régler le problème, c'est-à-dire le climat psychologique qui accompagne la question, avant de régler, de donner la réponse. Une fois, un type est venu me voir. Un monsieur, doctorat de physique, Ashkenaz. Oui, écoutez, moi j'ai fait tous les séminaires, tous les trucs et ça. Personne n'a jamais répondu à ma question. Pourquoi il y a eu 6 millions de morts?
Je dis, mais si on ne répond pas à une question comme ça, on s'associe à la douleur, on accepte et on arrête de réfléchir. Parce que déjà, quand tu réfléchis, déjà tu insultes les gens qui sont morts. Et il est parti. Après, il a dit à un autre conférencier, il a dit, écoutez, ça fait 15 ans que je pose cette question. Il m'a dit, personne ne m'a répondu comme lui. Il m'a donné exactement la réponse. Mais moi, je n'ai pas répondu à sa question. J'ai été solidaire de son problème. C'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas une réponse. Il voulait une solidarité. La réponse, ce n'était pas une réponse. Et au contraire, la réponse aurait été une insulte. Qu'est-ce que tu dois faire ? La solidarité. Si je vous dis que des fois, la question, elle est tellement violente que la meilleure réponse, c'est de se taire. Assis-toi, tais-toi, pleure avec moi, c'est tout. Plus la question est violente, elle est grave, plus tu te la fermes, mieux ça vaut. Parce que regardez bien, plus tu parles, plus tu vas t'arrêter de parler. En t'arrêtant de parler, regardez bien, tu vas délimiter la réponse. Mais en délimitant la réponse, tu as délimité la question. Si tu délimites la question, ça veut dire que mon problème, il n'est pas grave. Mais mon problème, il est très grave. Comment tu peux dénigrer mon problème en parlant? Alors tu te tais. Et tu respectes et tu pleures. Ça a fait, ça suffit. Pourquoi ? Parce que une question et une réponse, c'est pas la même chose. Maintenant, on va rester sur le plan intellectuel. Moi, je vous ai montré comment l'émotionnel il se mélange avec l'intellectuel. Mais pourquoi quelqu'un est dérangé par une question ? Parce que, au fur et à mesure que la question se développe dans sa tête, elle crée un complexe de l'ignorance qui l'empêche d'aborder la réponse. C'est-à-dire qu'en vérité, un mec, plus il a une question depuis longtemps, plus il a du mal à trouver la réponse. Vous savez pourquoi ? Parce que lui-même, s'il accepte la réponse, ça veut dire qu'il a été nul pendant des années. Donc il préfère dire que la réponse est mauvaise. Vous comprenez ça maintenant ? Par exemple, les gens, ils ont besoin qu'ils leur disent « C'est une bonne question. C'est important ce que tu as dit. Ça mérite réflexion. Je vais réfléchir. » Mais ils s'énervent quand tu leur réponds comme ça. Tac ! Tac au tac. « Ça fait 10 ans que je réfléchis, tu me réponds comme ça. » Je t'ai rien dit, moi je te dis une réponse qui est donnée depuis 3500 ans. Elle est vieille. C'est pas parce que tu l'avais pas. C'est qu'il n'y a pas de complexe de ne pas savoir. Ouais. Et il n'y a pas d'orgueil de savoir. C'est la même chose. Oui ou non? Une fois quelqu'un m'a demandé quelle différence entre la science et l'étude. Je dis, c'est très simple. Je dis les scientifiques, ils se posent des questions dans le but de trouver une réponse. Les Chachamim, ils ont la réponse. Et ils se posent des questions pour comprendre la réponse. Il me dit, quelle différence ? Je fais une différence de folie. Les Chachamim, étant donné qu'ils ont la réponse, ils sont bien dans leur peau. Parce qu'au pire, ils ont la réponse. Même s'ils ne la comprennent pas. Maintenant, ils peuvent se poser tant de questions que et ça ne la dérangerait pas. Parce que de toute façon, ils ont la réponse. Donc eux, ils ont la sérénité de la réponse. Donc ils n'ont pas peur de la question. Le scientifique, lui, il se pose des questions dans le but de trouver une réponse. Mais plus il développe la question, plus il développe un complexe, moins il accepte les réponses. Et il ne trouve pas de réponse. Et il devient brel, il devient fou, il ne trouve pas de réponse. Il continue, il devient encore plus fou. Il devient fou. Et plus la réponse elle est claire, et moins il la voit. Et comme ça. Oh, c'est pas possible. C'est pour ça que les plus grandes découvertes scientifiques, elles ont été faites par hasard. Parce que c'était évident, mais c'est évident, mais c'est évident, c'est évident. C'est évident. Il dit, mais non, c'est évident, pourquoi j'ai passé 10 ans ? Pas mal. C'est comme ça. Ça veut dire que la question, elle développe le complexe de la question, alors que la réponse, elle développe la sérénité de la réponse. Vous allez me dire, mais ça n'arrive à rien d'être serein alors que tu as plein de questions. Je vous dis un truc incroyable. Moi, j'ai fait plus de 1500 conférences. J'ai jamais entendu une bonne question. Pas une bonne question dans le sens d'une question intelligente. Une question qui remet en cause. Mais les plus graves questions que j'ai entendues, c'est dans la Guémara et dans les commentaires. C'est grave. Des questions d'Apikoros dans la Gemara et dans les commentaires. Pourquoi ? Parce que ça, les gens, ils ne veulent pas comprendre. Quand tu es dans la Torah, tu as le droit de poser toutes les questions que tu veux, si c'est dans le but de la comprendre. Mais quand tu n'es pas dans la Torah, tu te la fermes. Tu sais pourquoi ? Parce que de toute façon, tu n'as pas les moyens de comprendre. Alors, pourquoi tu veux que je te donne la réponse ? Tu n'as pas les moyens de comprendre. C'est comme si un mec, il arrête Einstein dans la rue, il lui dit E égale MC2, bonjour, merci. Merci. Alors Albert, il dit tu as une formation universitaire ? Ouais, BEP de plongeur. Alors, E égale MC2, hein ? Ça va. Qu'est-ce que tu veux ? Tu parles pas de la même langue. Bichla, c'est un martien pour toi. Il comprend rien, si vous voulez dire. Vous comprenez ou non ? C'est pareil. Il a le complexe de la question, il n'arrive pas à aborder la réponse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débarrasser du complexe de la question. Qu'est-ce qu'il fait dans l'étude? Regardez, un truc incroyable. Tu étudies la Gemara, des centaines de questions. Tu fais des commentaires, plein de questions. Tu as plein de questions qui restent Tsarihiyun. Il n'y a pas de réponse. Ou Tsarihiyun Gadol. Grande réflexion. Ou Tsarihiyun Katan. Petite réflexion. Ou alors, Douk. Ouais. Douk Etev. Cherche bien, tu vas trouver. Fais attention, tu vas trouver. C'est-à-dire quoi? On ne meurt pas d'une question. Tu vas me dire, mais alors, on est des imbéciles si on vit avec des questions. Pas du tout, regarde. Des fois, tu vas voir un rave, il donne une question. Tu poses une question, il te répond. Au bout de 10 ans, tu as compris la réponse. Tu dis, ah, c'est ça qu'il voulait dire. Lui, il a anticipé sur 10 ans. Toi, tu croyais que tu avais une question ponctuelle. En vérité, tu avais une question beaucoup plus profonde. Toi, tu as une question de point. Lui, il a une réponse de fond. La réponse de fond, pour la comprendre, il faut du recul. Tu n'as pas de recul puisque toi, tu as un problème ponctuel. Toi, tu es collé au problème, tu ne vois pas. Lui, il est recul. Il a du recul par rapport au problème. Il donne la réponse, tu comprendras plus tard. Donc, en vérité, non seulement il a compris ta question, mais il a compris que toi, pour comprendre ta réponse, la réponse, tu as besoin de temps. Deuxièmement, vous savez que les réponses, elles mûrissent avec le temps. Ça mûrit une réponse. Pourquoi c'est marqué Veya, Imshamoa, Tishmar? Si tu étudies, tu étudieras. Si tu comprends, tu comprendras. Cette Gemara, tu la fais aujourd'hui. Tu la comprends. Tu la refais dans 10 ans. Tu la comprends autrement. Tu la refais dans 20 ans. Tu la comprends autrement. Alors tu dis, alors c'est pas la même Gemara. Non, c'est que Baruch Hashem, t'as changé. Et là, tu la recomprends de la même manière. Ça veut dire que t'es resté le même. T'es un brel fini. Tu te perpétues dans le CP. Faut évoluer. Même les yaourts, ça tourne. Ça tourne. Même les yaourts, ça tourne. Il faut pas hésiter. Faut pas hésiter à changer. D'accord? Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la recherche de la sérénité. Première étape de la recherche de la sérénité, on ne meurt pas d'une question. On n'est pas remis en cause par une question. On ne comprend pas, c'est pas grave, on comprendra plus tard. Faut continuer. Comment je vais faire pour accepter la question? Je m'habitue à vivre avec des questions. Tu me dis si on vit avec des questions, les imbéciles? Au contraire, tu verras que les gens qui acceptent les questions, ils trouvent des réponses. Les gens qui refusent les questions, ils trouvent pas de réponse. Donc on arrive à un théorème effroyable. Celui qui comprend, c'est celui qui accepte de ne pas comprendre. Et celui qui ne comprend pas, c'est celui qui refuse de ne pas comprendre. En refusant de ne pas comprendre, il s'empêche de pouvoir comprendre un jour. Donc, la liberté intellectuelle, c'est d'accepter de ne pas comprendre au profit de comprendre. Ça a l'air profond comme ça, hein? Vous savez comment ça s'appelle en deux mots? Naase venishma. Naase venishma. La Torah, elle t'a pas interdit de comprendre. Les gens, ils disent, oh, les religieux, les dogmes, ça, les œillères, ils voient. La Torah n'est pas dogmatique. Vous savez pourquoi? Puisqu'elle t'a donné des mitzvot qui sont incompréhensibles. Et elle t'a donné une mitzvah depuis l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de la mort d'étudier la Torah tous les jours, jour et nuit. Si la Torah était une dictature, c'est bien que les dictateurs ne veulent pas que le peuple se cultive. Puisque la culture du peuple, c'est la révolution. Puisque la culture, c'est les armes de la libération. Donc, jamais les dictateurs veulent que le peuple se cultive. Oui ou non? Donc, si la Torah était une dictature, elle empêcherait la culture. Or, la Torah, elle a donné la mitzvah principale, c'est la culture. Par contre, qui c'est qui veut pas la culture? Le Yetzer Hara. Il veut pas qu'on étudie la Torah. Qui c'est? Un dictateur. Parce qu'il sait qu'avec la Torah, tu vas te libérer du Yetzer Hara. Barati lecha Yetzer Hara. Paratilera, Torah, Tavlin. Je t'ai créé le Yetzer Hara, je t'ai créé la Torah en médicament. Les gens, ils ne veulent pas comprendre. Et vous verrez toujours que les gens qui traitent les orthodoxes d'intolérants, c'est des gens qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie. C'est extraordinaire. Alors que vous, vous pouvez parler et de la Torah et de leur science, mais eux, ils ne peuvent souvent même pas parler de leur science, encore moins de la Torah. Alors qui c'est qui est orthodoxe? Qui c'est qui est obscurantiste. Obscurantiste? Mais un mec, il refuse de t'écouter, il dit qu'il est obscurantiste, que moi je suis obscurantiste. Mais lui, moi je suis prêt à l'écouter, moi. Bechlal, moi je lui explique son métier. Moi je lui explique son métier, moi. C'est lui qui travaille dedans, vous comprenez ou non? Lui, il est dans la communication, je lui explique la communication. Lui, il travaille la vente, je lui explique la vente. Lui, il est dans les arts, je lui explique les arts. Lui, dans la médecine, je lui explique la médecine. Lui, la physique, je lui explique la physique. Et je lui explique la Torah. Et lui, il n'est pas d'accord avec la Torah, mais il ne sait même pas de quoi je parle. Il ne sait pas de quoi je parle, Bichlal, il ne sait même pas de quoi je parle. Il ne sait pas de quoi je parle. Comment il sait? Si lui, il ne sait pas de quoi il parle, il sait de quoi je parle. C'est complètement débile. Alors, qui c'est qui est obscurantiste? C'est extraordinaire. Extraordinaire de voir. Moi, les gens, ils vont au cinéma pour voir des films de science-fiction, mais la rue, elle est remplie de phénomènes paranormaux. Ça sert à rien. Mais tu pleures de rire. Tu pleures de rire. Et ils appellent ça les libéraux. C'est extraordinaire. Ils appellent ça des libéraux. Alors qu'ils n'arrivent même pas à envisager autre chose que ce qu'eux, ils pensent. Et ce qu'eux, ils pensent, déjà, c'est déjà sur, foncièrement, sur une dérive de ce qu'ils savent être la vérité. Puisqu'ils ont été obligés de changer la vérité pour arriver à la leur. Donc, ça veut dire que le départ, c'était faux. Et là-bas, c'est le contraire. C'est eux qui sont faux. Parce que si c'est vrai au départ, pourquoi ils ont changé? Ils ne sentent même pas qu'ils disent des bêtises. C'est carrément idiot. Vous comprenez ou non? Si la Torah est divine, elle ne peut pas être changée par les hommes. Et la Mahalé n'est pas divine. Ah, pourquoi tu fais une religion? C'est pas une religion. Fais autre chose. Fais de la cuisine. Fais de la culture physique. Bizarre. Hein, la sérénité, c'est qu'une personne, elle arrive à se perpétuer à l'intérieur de sa réflexion sans avoir de coupure. J'ai une question, c'est pas grave, j'avance. J'ai une réponse, c'est pas grave, j'avance. Faut pas se suffire une réponse. Vous savez, on réfléchit, on commence à comprendre, on dit, ah, je comprends plein de choses maintenant, je suis entouré d'idiots, c'est facile. Il suffit que je m'habitue à m'adresser à des idiots, j'ai plus de questions. Non, il faut aller chercher les Tamir Khamim. La question. La Gemara, elle dit, qu'est-ce que c'est Amaret? C'est quoi un ignorant? C'est quoi? Afilukara, Afilushana. Même s'il a pris toute la Torah, écrit toute la Torah orale, c'est un ignorant. Pourquoi? Shloshimesh Tamir Khamim. Il n'a pas servi les sages. Pourquoi? Quand tu sers les sages, tu es à côté d'eux. Ta Torah, elle est vérifiée perpétuellement. Donc tu ne peux pas dire des bêtises. C'est comme tu as un responsable qualité. Il regarde, il dit, les boutonnières, faut pas les mettre dans le dos. Mais quand quelqu'un il parle à des ignorants, il peut dire ce qu'il veut, l'autre il piche que là, l'autre. Oh là là, je veux dire mieux encore. Moins un type connaît, plus c'est compliqué, plus c'est vrai. Si tu expliques compliqué d'une manière, une chose simple, le type il est convaincu que c'est vrai. C'est bizarre, c'est pourquoi? Parce que comme il est perturbé et il est déstabilisé par le fait qu'il ne comprend pas, il est sûr que ce qui est inconnu est plus impressionnant, donc plus vrai, et que ce qui est plus simple, c'est plus compris, donc plus nul. Qui n'a rien à voir. Ça s'appelle mélanger la psychiatrie avec l'intellect. D'accord? C'est comme ça. Donc si tu dis d'une manière compliquée une chose simple, le type il est convaincu que tu dis une chose vraie. Alors que c'est parfaitement faux. On peut dire une belle erreur. Une belle erreur. Mais fondée sur du faux. Tout au départ. S'habituer à vivre avec la question, s'habituer à vivre avec la réponse. Maintenant il y a pire encore. Il faut s'habituer à la vérité plurielle. Ça c'est dur ça. Vous voyez dans la Guémara, vous étudiez la Guémara. Il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, par exemple. Un, il dit permis, l'autre, il dit interdit. D'accord? Vous dites, mais attendez, il y en a bien un qui a raison. Alors, c'est permis ou c'est interdit? Tu dis, attends, assis-toi. Je t'explique qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit permis. Tu dis, ah, pff, c'est super, voilà, il a mis une preuve. Il avait une preuve là-bas, il avait une question là-bas, il a répondu à la question, il avait une deuxième question, il a répondu à la deuxième question. C'est super. Très bien. Rabbi Yehuda, c'est vrai. Donc, Rabbanan, c'est faux. Enfin, je t'explique Rabbanan. Rabbanan, ils ont dit comme ça. Ils ont dit comme ça, ils ont amené une preuve là-bas, une preuve là-bas. Ils ont rétorqué sur Rabbi Yehuda, ça et ça. Ils ont amené une preuve là-bas, ils ont rétorqué la question qu'ils avaient là-bas. Ils sont vrais. Rabbi Yehuda, il est vrai. Rabbanan, il est vrai. Ah, tout le monde est vrai, là. Qu'est-ce qu'il faut? Ça s'appelle la vérité plurielle. Tu dis, oh, c'est pas possible. Ou c'est vrai ou c'est faux. Ça aussi, les goyim, ils connaissent pas. Les goyim, ils connaissent trois dimensions. Le vrai, le faux, l'absurde. Le vrai, le faux, l'absurde. Et dans le vrai, ils disent pas le vrai. Ce qui tend vers le vrai. Le vrai, ça n'existe pas. Le vrai, c'est religieux. Pour eux, il n'y a pas de singulier. Singulier, c'est dangereux. Pluriel, c'est probabilité. Probabilité, tu te rapproches de la vérité. C'est ce qu'on appelle la logique de la chevrotine. Je ne sais pas si vous connaissez la chevrotine. Vous connaissez la chevrotine? La logique de la chevrotine, c'est plus on tire de balles, plus on a de chances d'atteindre la cible. Ce qui est complètement idiot. Parce que ça dépend si la cible, elle est devant ou derrière. Bah, il vaut mieux un tireur d'élite avec une balle qu'un mauvais tireur avec un million de balles. C'est la loi de la probabilité. Il dit non, c'est pas vrai. Non, si tu multiplies les tentatives, tu augmentes les chances. C'est faux. Tu peux acheter 16 millions de tickets de loto et perdre. Parce qu'il y a 16 millions et une combinaison. Amba. Tu dis oui, mais tu as quand même plus de chances. Tu dis Dieu, il fait ce qu'il veut. Tu sais que Dieu a un humour extraordinaire. Ça fait 20 ans que tu joues la naissance de tes enfants au tiercé. Le jour où tu joues pas, ils sortent. mais 19 dans l'ordre. C'est la première fois qu'on a vu tout le monde passer en même temps la ligne. Rien que pour toi, rien que parce que Dieu, il te fait comme ça. Allah. C'est l'humour de Dieu. S'habituer à la vérité plurielle. Lui, il a raison, lui, il a raison. D'un autre côté, c'est incroyable. C'est pas possible. On peut pas avoir alors, tout le monde a raison. D'un autre côté, pourquoi pas? Regardez. Hein. Vous avez remarqué que quand il y a une situation avec 5 personnes, il y a 5 versions. Chacun sa vérité. Alors maintenant, tu as deux solutions. Ou tu dis qu'il y a 5 vérités, ou tu dis que la vérité, c'est la combinaison des 5. Par exemple, en économie, vous savez, on sort une théorie économique tout à peu près tous les 10 ans. On sort une nouvelle théorie économique. Pourquoi? Parce qu'on fait intervenir un nouveau critère. Avant, on disait l'offre, la demande. Bon. Après, ils disent l'offre, la demande et l'état d'esprit de l'époque. Après, ils font l'offre, la demande, l'état d'esprit et l'image du produit. Après, ils font l'offre, la demande et tous les 10 ans, ils rajoutent quelque chose. Alors là, tu dis, la vérité économique, c'est quoi? La vérité dans la perception économique, c'est la combinaison des éléments. C'est faux, puisqu'il manque un élément. Parce que dans 10 ans, il y en aura un nouveau. Ça peut durer pendant 30 000 ans. De toute façon, il y a toujours un nouvel élément. Parce qu'un jour, tu diras, et la température? En rentrant dans le magasin, qui crée un choc émotionnel, qui resserre les neurones, qui fait que tu perpétues ton regard plutôt vers le haut du rayon que vers le bas, vers les couleurs vives, qui, elles, influent les ions négatifs, qui font que les chocs astrales entre les neurones créent un besoin de produits qui sont à l'origine d'une odeur attirante. Ah, c'est infini. Oui, je viens d'en créer un pour vous, gratuitement. Un nouveau critère dans la vérité économique. C'est infini. C'est pas grave, ça s'appelle la vérité plurielle. Il faut s'habituer à la vérité plurielle. Ça veut pas dire que c'est faux. La Torah, elle a 70 facettes. 70 facettes, c'est-à-dire 70 fois vrai. Ça peut pas être 70 fois vrai. C'est 70 fois vrai. Vous savez pourquoi? Parce que regardez bien, la Torah, elle est divine, donc elle n'est pas humaine. La Neshama, elle est divine. Elle n'est pas humaine non plus. Toi, tu utilises la Neshama pour aller à l'intérieur de la Torah. Donc, tu vas projeter ton psychique qui est personnel à travers une lumière qui est divine, qui elle est inhumaine. Donc la lumière de l'âme, elle va rencontrer la lumière de la Neshama au travers d'un diapo qui s'appelle ta perception personnelle. Donc tu vas avoir un regard personnel sur une masse qui elle n'est pas humaine. Donc c'est automatiquement unique. Et comme chaque être il est unique, donc chaque être il aura une perception différente. C'est pour ça que c'est marqué qu'il y a 600 000 versions de la Torah, parce qu'il y a 600 000 âmes qui ont assisté au don de la Torah. Parce que chacun, selon son orientation, disons à dire, psycho-divine, il a une perception de la Torah qui est différente. Donc c'est pas grave que la Torah soit plurielle. C'est pour ça que chaque juif il a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. C'est pour ça que chacun il a une mitzvah d'étudier la Torah et d'écrire des chidushim de la Torah. Parce que si on a besoin de la Torah, des tzadikim, pour compléter toute l'étude de la Torah, on a aussi besoin de la Torah des Rechaim, mais seulement il faut qu'ils fassent les Shuvah. Comme je l'ai dit hier, que pour l'instant la Neshama, elle est dans l'emballage, elle est toute neuve. Mais le jour où ils voudront la confronter avec la Torah, on aura une autre Torah qui nous manque et qui va être obligée de revenir en Gilgul pour pouvoir donner cette Torah dans le monde. Et tant que toute la Torah n'a pas été révélée, on ne peut pas avoir le Mashiach.
C'est quoi
les Chidushim? Des nouveautés, des nouvelles perceptions de la Torah. Faites-moi un signe quand je délire. Si vous comprenez ça, vous comprenez que cette perception intellectuelle de l'étude, elle va te donner cette liberté intellectuelle. Ça veut dire quoi? Je veux dire un truc incroyable. C'est ce qu'est la dialectique. C'est connu la dialectique. Ouais, toi tu dis ça, moi je dis ça, toi tu dis ça, moi je dis ça, je dis ça. D'accord. Maintenant, moi j'ai besoin de ta question pour comprendre ma réponse, pour trouver ma réponse. Maintenant, j'ai besoin de ta deuxième question pour comprendre la réponse que je t'ai donnée en répondant à ta première question. C'est la dialectique. Si je vous dis que les trois quarts des gens qui discutent ne parlent pas ensemble, ça vous étonne ou non? Regardez. Pour parler, pour répondre, faut entendre. D'accord? Souvent les gens, quand vous leur parlez, au lieu d'écouter la réponse que vous leur donnez, ils préparent la prochaine question. Donc, comme ils n'ont pas, regardez bien, comme ils n'ont pas entendu la réponse, donc ils ne peuvent pas vous répondre puisqu'ils ne savent pas ce que vous avez dit. Et même s'ils ont écouté, tous les blancs qui s'inscrivent dans leur écoute du fait qu'ils pensent à autre chose, fait qu'ils n'ont pas tous les éléments de la réflexion. Donc, puisqu'ils n'ont pas tous les éléments de la réflexion, donc ils ne répondent pas à leurs questions que vous avez posées. Donc, lui, il dit ce qu'il a envie de dire, vous, vous dites ce que vous avez envie de dire, il n'y a pas de dialogue. Souvent, c'est comme ça. Les trois quarts des gens savent parler mais ne savent pas écouter. Donc, ils parlent tout seuls. Donc quand un type il te dit « je ne suis pas d'accord, c'est impossible parce qu'il ne sait pas ce que tu as dit ». Il ne sait pas ce que tu as dit. Prenez au piège un type. Tu dis, écoute, je veux bien écouter ta réponse, mais d'abord, est-ce que tu pourrais répéter ma question? Toi, tu as ma version. Dis-moi ta version. Dis-moi ma version. Écoute, je vais dire une chose. Que j'ai raison ou que j'ai tort, je vais accepter ta version. Mais à une condition, dis-moi la mienne. Dialogue de sourds. Dialogue de sourds. Les trois quarts des dialogues sont des dialogues de sourds. Parce qu'il n'entend même pas ce que tu dis. La Gemara, elle dit, pourquoi est-ce qu'on a accepté de dire la halakha comme Beth Hillel? Vous savez pourquoi? Parce que Beth Hillel, il pouvait répéter l'argumentaire de Beth Shammai. Maintenant, nous, on dit, heureusement alors. Attendez, une discussion de Beth Shammai et Beth Hillel, elle a duré 2 ans et demi. Si elle a duré 2 ans et demi, ça veut dire que Beth Hillel, pour dire son argument, il lui fallait 1 an 1 quart, et Beth Shammai 1 an 1 quart. Donc quand Beth Shammai il répète, c'est-à-dire pour formuler, il faut 1 an 1 quart. Je ne sais pas si vous sentez ce que ça veut dire, 1 an et demi pour dire une chose. Alors je vais dire une idée, il faut 1 an et demi pour la dire. Tu en comptes l'idée? Je ne sais pas, pour vous donner une proportion, quand Einstein il a donné pour la première fois sa théorie, il y a 3 mathématiciens dans le monde qui ont compris de quoi il parlait. 3. Tous les autres, ils pigeaient rien. C'est de la folie, non? Alors imagine le type, qu'est-ce que c'était Beth Shammai? C'est comme la 74e galaxie après les 3 milliards de kilomètres d'années-lumière. C'est loin. Einstein, c'est très loin. Il fallait 1 an et demi pour formuler sa version des faits. Maintenant, Beth Hillel était capable de répéter la version de l'autre avant de dire la sienne. D'un côté, c'est extraordinaire. De l'autre côté, tu dis, mais c'est évident. Attends, si je ne sais pas ce que tu dis, je ne peux pas ne pas être d'accord avec toi. Quand je dis à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'en sais rien. Si je ne suis pas d'accord, peut-être que je suis d'accord. Vous voulez une preuve? Quand vous voulez vous formuler votre version, au lieu de la mettre sous votre nom, vous le mettez sous le nom de l'autre. D'un seul coup, l'autre, il est d'accord. Vous voyez ce que je dis ou non? Par exemple, tu dis, bon, moi je dis comme ça, tu dis comme ça. Attends, je vais être sûr d'avoir compris. Toi, tu dis comme ça, et vous dites votre version à vous. Et vous dites, elle est bonne cette version? Eh bien, le mec, il est tellement content d'entendre sa version formulée sous son nom alors que ce n'est pas la sienne, et de autant qu'elle ait raison qu'il l'accepte. T'as inversé les versions. T'as gardé les noms, t'as inversé les versions. Le mec, il est content! Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin d'avoir raison, il suffit qu'il sache qu'il a raison. Donc, donne-lui l'impression qu'il a raison. Il ne s'habitue pas à la vérité plurielle. Je vous dis un grand secret. Quand vous avez un conflit avec quelqu'un, c'est ce qu'il faut faire la première chose. Il faut argumenter son point de vue. C'est très dur. Hein. Attends, c'est moi qui ai raison. Par exemple, tu as prêté $10 000 au mec, il ne te le rend pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas le tuer. Argumente son point de vue. Argumente. Les trois quarts des... Regarde, par exemple, pourquoi vous allez voir un médiateur quand vous avez un conflit? Vous savez pourquoi? Parce que la seule caractéristique du médiateur, c'est qu'il n'en a rien à faire de votre histoire. Donc, puisqu'il n'en a rien à faire, il est complètement séparé des deux. Donc, comme il est séparé des deux, il peut entendre la tienne, il peut entendre la deuxième et superposer les versions. Mais toi, tu ne peux pas entendre l'autre, donc tu ne peux pas superposer. Donc, tu ne sais pas si tu as raison ou tu as tort. Lui, il ne peut pas t'entendre, donc tu ne peux pas superposer. Donc, les deux ont raison, donc personne n'a tort. Donc, on n'avancera jamais. Mais non. Quand on superpose les deux, on trouve toujours un compromis. Alors, les gens, ils te disent... Par exemple, des couples, ils te disent, nous, on n'est jamais d'accord sur rien. C'est impossible. Je veux dire, peut-être, à part, peut-être avec Adolf Hitler ou Jean-Marie, peut-être, mais sinon, c'est impossible de ne pas être... Deux personnes qui ont un cerveau, ils ont toujours un domaine de superposition. C'est impossible. Donc, si on n'est jamais d'accord, c'est qu'on perpétue la querelle. Vous comprenez ou non? C'est pas un problème de sujet. C'est qu'on perpétue. Donc cette recherche de la sérénité au niveau intellectuel, elle passera continuellement par une auto-éducation à la recherche de la vérité, à la place des intérêts dans la réflexion, au fait qu'on arrive avec des questions, qu'on comprend que la vérité est plurielle, qu'on accepte la vérité de l'autre, qu'on est capable de la superposer avec la nôtre. Tout ça, ça va perpétuer la sérénité. Parce que sinon, on va être perpétuellement agressé par la vérité de l'autre. Et donc, on n'atteindra jamais la sérénité intellectuelle. Or, si tu n'as pas la sérénité intellectuelle, tu as la moitié du jugement qui est foutu. Vous comprenez ça? Après, il y a la sérénité émotionnelle. Alors là, c'est encore pire. La Gemara dit, Rahmani, Menachem Chaim, ceux qui sont trop sensibles, ils ne vivent pas. T'es à vif. Il y a des gens qui sont à vif. Ah, ne parle pas comme ça. On ne passe pas ce ton. Ne me regarde pas. Pourquoi tu dis ça? Oh, tu vois, je te vois venir. Je sais où tu es, toi. Tu peux arriver avec des gens comme ça. Tu crèves. Ouais. C'est les pincettes. Non, ça fait mal. Le souffle. Non, ça fait mal. Le regard. Ça m'agresse. Souvent, je dis à quelqu'un, si tu as épousé une GTI, n'appuie pas sur l'accélérateur. Lève le pied. Lève le pied, regarde. Lève le pied. Marche à côté. C'est comme ça. Il faut s'habituer. Il dit, cette sérénité émotionnelle, c'est quoi? C'est qu'il faut arrêter de vivre comme une balle de ping-pong. Il y en a toute leur vie, c'est quoi? À 14 ans, j'ai été choqué par ça. À 16 ans, j'ai eu une déception émotionnelle. Parce que j'ai appris qu'Elvis avait 48 ans. D'accord? À 19 ans, mon meilleur copain m'a lâché. À 21 ans, la veille du mariage, il est parti au Nicaragua. À 34 ans, toute leur vie. J'ai été vidé de ma boîte, j'ai raté une fois mon bac. T'as retenu que ça? Et pas que ça, il y a aussi des moments de bonheur. Pourquoi t'as retenu ça? Parce qu'un homme, encore une fois, il a des tentatives d'existence. Maintenant, puisque c'est dur d'exister, c'est plus facile de justifier la non-existence que d'assumer la difficulté d'existence. Donc chacun, il va toujours se trouver entre le fait qu'il justifie ce qu'il n'arrive pas à faire ou alors qu'il arrive à sublimer les obstacles qui l'empêchent de faire. Ou t'es un battant, ou t'es un battu, ou t'es un vaincu, ou t'es un vainqueur. Chaque fois, tu vas te battre pour réussir à passer ce cap-là. Dans ce cap-là, il y a la sérénité émotionnelle. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que tu reçois un coup, ce coup, il crée une onde de choc à l'intérieur de toi-même qui se perpétue. Le fait qu'il se perpétue, c'est parce que tu l'entretiens. Quand tu reçois une baffe, la baffe, elle dure une demi-seconde. Même pas, elle dure un dixième de seconde. La douleur, elle dure 7 secondes. La vibration au niveau des os, elle dure à peu près 67 secondes. Alors pourquoi tu souffres pendant 2 ans? Parce que tu cultives ce qu'on appelle la culture ou la rancune, ce que vous voulez. Il y a des gens, ils ont des foyers de culture comme ça. Mon père, je lui en veux. D'ailleurs, exprès pour, à cause de lui, à 48 ans, je fais pipi au lit. Voilà. Voilà, papa, tu t'es trompé. Merci, Freud. Bon. L'autre, il en veut à son patron. L'autre, il en veut au maître qui lui a tiré les oreilles. L'autre, il en veut à l'épicier qui l'a attrapé alors qu'il volait. Légalement. Ou légitimement. Parce qu'il avait faim. Et toute la vie, il perpétue comme ça des rancunes. Mais qu'est-ce que c'est la rancune, sinon l'argumentaire qui te permet de justifier la non-existence? Comme les enfants, ils disent, c'est pas moi, c'est lui. Alors, quand un homme, tu lui dis, bon ben c'est à toi, ils disent, c'est pas moi, c'est l'autre. Attends, t'as 48 ans, t'as 4 enfants, faut y aller mon vieux là. Faut assumer là, c'est le moment ou jamais. Et dis, c'est pas de ma faute, c'est la conjoncture, c'est le système, c'est les moyens, c'est la banque qui m'a pas fait confiance. Les battants, ils écrasent les obstacles. Les battus, ils entretiennent les obstacles. Ils les revissent. Oh, quel obstacle. Et tu dis, moi, je m'en fous, j'ai un argumentaire. Moi, si on me demande, je me justifie. Je ne t'ai pas demandé des justificatifs, je te demande des solutions. Donne-moi des solutions. Il dit, non, mais je peux me justifier. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec des justificatifs maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Ton fils, il va chez le psy maintenant. Parce que tu n'arrives pas à lui expliquer ce que c'est un homme. À quoi ça sert? Aucun intérêt. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que les chocs émotionnels sont nombreux. Mais d'un autre côté, on a bien expliqué hier que si quelqu'un il a compris qu'une épreuve, c'est pas fait pour détruire. Une épreuve, c'est pour donner l'occasion de grandir. Donc si quelqu'un il optimise les épreuves, il va être grand. Et si quelqu'un il subit les épreuves, il va être petit. On peut sauter un obstacle ou on peut s'écraser la tête contre l'obstacle. Qui c'est le malin? Celui qui saute avant. Qui c'est l'idiot? C'est celui qui dit, quel obstacle? Qui a parlé d'obstacle? Et les philosophes, ils ont dit, l'homme, c'est le seul animal qui s'étonne. Vous connaissez cette phrase? C'est extraordinaire, ça. Il y a juste une erreur. C'est que l'homme n'est pas l'animal. Et que d'après les chachamim, un homme, il s'étonne jamais. Pourquoi? Parce que, Ezeu chacham arouet anolad. Qui c'est le chacham? Celui qui voit l'avenir. C'est-à-dire qu'un homme, il doit avoir au moins 5 ou 6 ou 7 degrés d'avance sur le mode d'évolution d'une situation. Donc les gens qui s'étonnent, c'est les gens qui vivent au premier degré. Oh! Oh, ce qu'on appelle les fronts plats. Parce que toute leur vie, ils font... Oh. Ouais. Des gens comme ça. Ouais. Toute leur vie, comme ça. Oh, oh, il m'a roulé. Oh, il m'a quitté. Oh, il m'a trompé. Oh, oh. Mais ouvre les yeux, chérie. Je comprends pas, tu passes dans la rue toute la journée, tu dis, oh, elle est belle, elle est mignonne, elle est mignonne, elle est simple. Il va partir ce mec-là. C'est clair. Tu t'arranges jamais, tu te maquilles jamais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir ailleurs. Si j'ai un associé, comme ça. Moi, j'ai mis tout l'argent, tout le travail. Lui, qu'est-ce qu'il a amené? Son derrière pour s'asseoir. T'as pas peur. Ben, les gens qui s'étonnent, ils prennent des coups. Un type qui s'étonne pas, pourquoi? Parce qu'il envisage, il calcule. Mais à la limite, il spécule. Il s'étonne jamais. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Comment vous voulez l'étonner? Comment vous voulez dire, oh, moi, chaque fois quelqu'un me dit, j'ai été trahi par quelqu'un, j'ai été déçu, j'ai dit, dites-moi, vous aviez dessiné avant coureur? Tac, 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 tac. Alors? Et là, t'as peur de voir la réalité? Mon vieux, l'autruche, c'est pas une religion. Hein. Les tefilines, faut pas les mettre là, faut les mettre là. Non, il y en a qui les mettent là et ils prennent la lanière, ils tournent autour. On appelle ça les ultras. Ouais. C'est pas possible. Non. La sérénité émotionnelle, c'est que malgré les coups de raquette, la balle de ping-pong, elle garde la même trajectoire. Faut, un jour, il faut dire j'en ai marre, arrêtez, j'en ai marre. J'en ai marre d'être transporté par là. Mais non, il ne faut pas fuir les difficultés, elles existent. Elles sont faites pour que tu grandisses. D'accord? Il ne faut pas les nier, il faut les accepter et les assumer. Si tu optimises une difficulté, elle devient un moteur. C'est comme l'aïkido, vous avez fait de l'aïkido, non? L'autre, il fait un mouvement, toi, tu profites du mouvement, et avec son mouvement, tu le fous par terre. Toi, tu n'as rien fait, tu ne fais pas d'effort. Pourquoi tu vas te crever? Vous savez, les sports occidentaux, c'est développer ta puissance. Les sports orientaux, c'est utiliser la puissance. Pourquoi tu te crèves, l'autre, il meurt? C'est comme ça, regardez Sony. Toi, le français, il trouve un brevet, il va chez une marque française, et on n'a pas besoin de ça. Sony, il achète 12,50 francs, il vend 1 milliard de marchandises. Sony n'a rien fait, tout ce qu'il a fait, c'est des trucs récupérés. Le japonais, il sait utiliser l'énergie des autres. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, nous, on a des idées. Eh ben, ça va pour toi. Ouais, il sait pareil. Quelqu'un, il comprend qu'en vérité, cette logique-là, elle fait que si tu peux optimiser toutes les énergies qui sont devant toi, les énergies positives, tout le monde comprend. Mais si tu comprends que même les énergies négatives, elles sont utilisables, ça s'appelle le recyclage. Il faut recycler les énergies négatives. Par exemple, tu as les nerfs, tu dis, les nerfs. Ouais? Eh bien, je vais avoir les nerfs contre ma flemme. Je suis têtu. Je vais être têtu contre l'Yetzirara. Il me dit, fais la Vera. Je ne peux pas, je suis têtu. Il s'appelle Bechol Levavera. Tu vas aimer Dieu de tous tes cœurs. Donc, tu vas utiliser le négatif au profit du positif. Dans tout, c'est comme ça. C'est exactement pareil dans l'émotionnel. On a besoin de l'émotionnel. Mais l'émotionnel, il doit être dosé. Parce que s'il n'est pas dosé, il devient un dissolvant de situation. Par exemple, les gens ils disent, j'ai plein de problèmes. Puis, excusez-moi, vous pourriez faire une liste? Tu fais une liste. Tu fais mettre dans l'ordre de priorité. Il en reste plus que 3. Tu dis, enlever les faux problèmes. Il en reste plus que 2. Tu dis, lequel qui se pose maintenant? Il en reste plus qu'un. Est-ce que c'est un vrai problème? Pas vraiment. Alors, comment ça se fait que tu es venu avec une masse? En psychologie, ça s'appelle l'amalgame. Les gens, ils font amalgame. C'est comme tu prends une feuille, tu mets plein de couleurs, après tu prends un dissolvant, tu le fais couler dessus. Ça fait masse. C'est vrai que ça fait dégueu. Tu dis, j'ai plein de problèmes. J'ai déchiré ma poche en sortant, j'ai oublié la clé à l'intérieur, j'ai ma femme qui me fait la tête, j'ai un dépôt de bilan en route. Attends, c'est pas les problèmes. Ta femme ne fait pas la tête, c'est une vue de l'esprit. Elle a un tic rictus depuis qu'elle est jeune. Ouais. Ta poche, tu l'as pas accrochée. Il te l'a rendue comme ça. La clé, elle n'est pas à l'extérieur. C'est toi qui es dehors, imbécile. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux? Donc, si tu vois les faux problèmes, il ne reste plus rien. Où est-ce que tu as trouvé la sérénité pour pouvoir assumer le choc émotionnel parce que tu n'es pas rentré dans la crise émotionnelle? Où tu as trouvé la force de ne pas rentrer dans la crise émotionnelle? Alors là, c'est parce que tu es capable de relativiser l'importance du problème. Ah, c'est un problème, ça. Vous savez, il y a un proverbe tchécoslovaque. Je ne sais pas s'il y a l'occasion d'écouter des proverbes tchécoslovaques qui dit que quand tu vois un géant, regarde toujours si ce n'est pas l'ombre d'un pygmée. Vous allez me dire, c'est un peu simplé. C'est pareil. Quand tu vois une masse comme ça, ouais, par exemple, c'est connu dans le business. Par exemple, quelqu'un te dit, tu sais, tu vas être introduit dans le groupe. Rontoulin, que peut-être que tu pourras dans le soute. Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur? Tu vas leur éclater la tête et tu vas leur vendre. Mais si tu dis, ah, ce secrétaire, j'ai peur, j'ai un lait d'introduction, un piston, un protection, enveloppe. C'est toi qui as créé le problème. Eux, ils sont pas grands. Eux, c'est pas un géant. Eux, c'est l'ombre d'un pygmée. C'est dans ta tête que ça se passe. T'as envie, tu vas éclater. T'as pas envie, tu vas te planter. C'est toi qui décides. Dans tout, c'est comme ça. Ah, les problèmes graves, les problèmes moins graves. Premièrement, il faut donner la taille au problème. C'est-à-dire quoi? T'as le droit de t'affoler à condition que tu le définisses. Attends, on va pleurer, on va s'asseoir, on va pleurer, t'en fais pas. Mais qu'est-ce qui va pas? Ça. Oh, t'exagères. Ouais, c'est vrai. Enfin, tu comptes, y a rien. Allez, j'ai besoin de parler. Par exemple, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, mais comment ça se fait que vous ne faites jamais la tête? Il dit, c'est un problème de référence. Je dis, moi, ma référence, c'est Auschwitz. Vous, votre référence, c'est Miami. Donc moi, tout ce qui est mieux qu'Auschwitz, je suis heureux. Vous, tout ce qui est moins que Miami, vous êtes malheureux. Ah, je vais te dire, la Courneuve et Miami. Tu peux être malheureux. Moi, je suis heureux, bon, je me lève le matin, je respire. Je sais qu'il y a des gens dans les hôpitaux, ils ont des tuyaux, là, ils font... Je suis content. Je respire, je suis content. Tu dis, mais c'est normal, ça. Il n'y a rien de normal. Rien de normal. Tu peux être décapité par un poteau électrique qui tombe juste au moment où tu passes en bicyclette. Il n'y a rien de normal. Donc, tu fais du vélo à 19h45. Tu es vivant, tu respires, tu as des yeux pour voir, tu as une femme qui t'attend, des enfants qui sont vivants. Dis merci. Tu dis, oh, mais ça, c'est normal. Il n'y a pas de normalité. Si ta référence, elle est haute ou si ta référence, elle est basse. Alors, quelqu'un il m'a dit, mais alors, tu vis avec l'angoisse, tu vois les camps, les barbelés, les miradors. Pas du tout, Chazé Shalom. C'est une référence. Comment je sais que je roule au milieu de la route? Parce que je vois la barrière de protection. Maintenant, je colle pas la barrière. Je sais où elle est. Elle est là, moi je suis là. Pourquoi je rentre pas dans le mur? Parce qu'il y a le mur et moi. Auschwitz, c'est une référence. C'est tout. Donc, j'ai pas le droit de me plaindre. Donc, je me plains pas. Comme je me plains pas, je regarde la taille réelle de mon problème qui n'est pas hypertrophié par mon désir de justifier mes non-réussites d'existence. Donc, je vois la taille réelle. Quand je vois la taille réelle, c'est pas un problème. Vous voulez la preuve? Pourquoi est-ce qu'on arrive toujours mieux à régler les problèmes des autres que les siens? Vous savez pourquoi? Parce que le problème de l'autre, je suis pas impliqué émotionnellement. Donc, je vais pas mettre le dissolvant qui déforme le problème. Par contre, mon problème à moi, je mets le dissolvant. Donc, mon problème, il devient un problème. J'ai un problème. Eh bien, tu sais ce que tu as qu'à faire? Tu as qu'à le régler comme si c'était le problème de l'autre. Vous savez comment ça s'appelle ça? La capacité de projection. Tu te regardes vivre. Tu veux pleurer, tu as le droit de pleurer. Tu veux écrire un monument, tu veux écrire un roman sur la douleur, tu veux élever un mémorial de l'angoisse. Tu peux le faire. Mais à une condition. Écris ton problème. Définis ton problème. Définition, délimite, solution. C'est fini. Question, réponse. Quand tu apprends à utiliser ces armes-là, donc tu ne subis plus les chocs émotionnels. Un problème, dénaturé. Un choc, tac. Un malaise, une agression, une remise en cause. À chaque fois, tu entretiens ta sérénité émotionnelle. Pourquoi? Parce que tu connais les lois. Par exemple, mida kenegen mida. Tu sais que ce que tu as fait de mal, tu vas le prendre en mal. Donc, c'est pas la peine de faire la tête, de faire le rebeller, ça va te prendre la tronche. Non, tu peux faire teshuva, fais teshuva. Si t'es haram, t'es pas haram, attends-toi à prendre sur la tronche. D'accord. Donc, quand ça t'arrive, tu t'étonnes pas. Maintenant, quand quelqu'un te fait une crasse, il y a deux parts. Il y a une part que le monsieur te fait une crasse. Il y a une deuxième, c'est que toi, tu reçois la crasse. Le fait que tu reçois la crasse, c'est pas par hasard. C'est parce que toi, tu la mérites. Le fait que lui la fasse, c'est pas normal. Donc, tu te défends. Ta dignité, elle est par rapport à son geste et non pas par rapport à la conséquence. Parce que la conséquence, c'est pas lui qui la maîtrise, c'est toi par le fait que tu as fait une bêtise. Donc, la conséquence, elle est liée à Dieu. La cause, c'est lui. La cause, c'est toi au départ. La cause ponctuelle, c'est lui. La cause ponctuelle, c'est un geste. Tu lui reproches un geste. Pour ça, tu te sauvegardes par la dignité, qui est la distance que tu entretiens avec l'endommageur. Monsieur, je n'ai rien à voir avec vous. M'explique. Pourquoi tu lui en veux? Parce que tu refuses de comprendre que la faute, elle vient de chez toi et que Dieu, il est à son origine par l'intermédiaire de ton erreur que toi, tu as planté à l'époque sous la forme d'une petite fleur et qui aujourd'hui est un épicéa. Évolutif. D'accord? C'est tout. Donc, toutes ces options-là, elles font que tu arrives à te déplacer à l'intérieur du choc émotionnel, soit en l'utilisant quand tu peux, soit en l'évitant quand tu peux pas. tu vas te déplacer aussi au niveau des chocs intellectuels, soit en observant la question, soit en attendant la réponse, soit en utilisant la question pour formuler la réponse, soit en comprenant que la question en soi, c'est ça la réponse. Tu as la perpétuité, regardez bien, intellectuelle, puisque tu as échappé aux échecs ou aux obstacles à la sérénité intellectuelle. Tu as la sérénité émotionnelle, puisque tu as éliminé ce qui empêche le débit du fluide émotionnel. Et il reste juste à faire la jonction entre la sérénité intellectuelle et la sérénité émotionnelle. Ça, c'est le travail d'équilibre permanent qu'on fait tous les jours. Par exemple, tu es un enfant, tu t'affoles. Tu es un adulte, tu t'affoles pas. Maintenant, ton enfant, il s'affole. Toi, tu le rassures. Il faut décider qui est l'enfant, qui est l'adulte. Par exemple, souvent, les gens, ils viennent, ils me posent une question. Par exemple, une femme, elle me pose une question. Elle me dit, voilà, une jeune fille, elle me dit, voilà, j'ai un problème. Bon, il n'est pas vraiment goy, il n'est pas vraiment juif, il n'est pas vraiment blanc, il n'est pas vraiment noir, il n'est pas vraiment bête, il n'est pas vraiment intelligent, il n'est pas vraiment honnête, il n'est pas vraiment malhonnête. Alors, à votre avis, je l'épouse ou non? Alors, moi, si je lui dis ça, elle va me dire, je suis raciste. Si elle me dit ça, je vais dire, je suis sexiste. Moi, je lui dis, écoutez, madame, qu'est-ce que vous auriez dit à votre fille? Alors, ben, c'est évident, j'aurais dit, base 2. Ben, je dis, pourquoi est-ce que ce qui est bon pour votre fille n'est pas bon pour vous? Vous aimez votre fille, vous lui dites ce qui est bon pour elle. Alors, ce que vous lui dites à elle, vous le dites à vous. Alors, elle va me dire, oui, mais moi, je ne suis pas ma fille. Je lui dis, mais qui vous a dit que vous n'êtes pas votre fille? Elle a du mal. Même Oedipe, il n'avait pas imaginé un truc pareil, d'accord? Ben, je vous explique. Je dis, à l'intérieur de vous, il y a deux personnes. Il y a un enfant et un adulte. L'enfant, c'est celui qui rêve. L'adulte, c'est celui qui assume. La conscience, elle est adulte. Le rêve, il est enfant. L'enfant, c'est le potentiel. L'adulte, c'est celui qui est en proximité avec la réalité. La maturité, elle est adulte. L'enfance, elle est... Le potentiel, il est enfant. À ce moment-là, l'enfant, il n'est pas rassuré. L'adulte le rassure. Je dis, quand l'avion, il tombe en pleine cordillère des Andes, que tout le monde meurt, il reste toi avec l'enfant. Il reste 4000 km pour arriver au premier refuge. Il fait moins 35 degrés. Vous êtes en pullover parce que l'avion a été détourné. Il partait des Antilles. Vous êtes en t-shirt et en short. Il fait moins 37. Le gosse, il te dit, on va mourir. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu dis, non, on va s'en sortir. On va marcher, on va se réchauffer. Et les hélicoptères vont venir, ils vont nous sortir de là. Donc l'enfant, c'est l'ambition et en même temps le désespoir. L'adulte, ouais, c'est la dure réalité et en même temps l'espoir. Donc il faut que l'adulte rassure l'enfant. Alors, t'as une question d'enfant. Dis à l'adulte qui est en toi de répondre. Parce que tu la connais très bien la réponse. Eh ben, dis à la mère de répondre à la fille. C'est facile. Ça s'appelle aussi la projection. Dans la recherche de la sérénité. Si tu as pu t'habituer à ne pas mourir d'une question, si tu t'es habitué à traiter la question en tant que question, si tu es habitué à délimiter la question et le problème qui accompagne la question, si tu es habitué à séparer les sentiments de la réflexion, parce que vous savez, les trois quarts des problèmes des jeunes filles aujourd'hui, c'est qu'elles sont amoureuses avant de connaître la personne. Donc évidemment que c'est facile de combler les manques, puisqu'ils sont amoureux. Mais après, un jour, on allume la lumière et on voit que Tom Cruise, il s'appelle Mahlouf Shishpartish. Eh oui. C'est vrai que ça... Il disait jamais... il disait pas américain, il disait amarocain. T'as vu? T'as senti? Ici, c'est pareil. Donc, à partir de ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ce travail perpétuel de lutte contre la négation, de lutte contre la remise en cause pour construire cet équilibre. Impossible de se déplacer autrement. Et je vais terminer avec ça. C'est le phénomène de la bicyclette. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous savez ce qu'est une bicyclette? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de réfléchir comment marche une bicyclette? Vous savez que c'est un phénomène physique extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez pourquoi? Vous prenez une route de campagne vide avec une ligne blanche au milieu. Et vous essayez de rouler au milieu de la ligne blanche qui elle-même est au milieu de la route. Essayez de faire ça. C'est très, très dur. Très dur. Vous savez pourquoi? Parce que pour faire avancer un vélo, il faut pédaler. Pour pédaler, il faut appuyer une fois à gauche, une fois à droite. Maintenant, le phénomène physique, c'est que quand vous appuyez à gauche, le vélo va à gauche. Et quand vous appuyez à droite, le vélo va à droite. Maintenant, si vous ne pédalez pas, le vélo n'avancera pas. Mais si vous pédalez, automatiquement, il se déséquilibre. Donc, le mouvement, il est toujours synonyme de déséquilibre. Oui. Comme l'immobilisme, il est synonyme de stabilité. Maintenant, c'est marqué Bechokotai Telechu. Un homme, il a une obligation de se déplacer. Un homme, il va. Alors, la Torah, elle dit va dans la Torah. Va dans la Torah, ça veut dire déplace-toi à l'intérieur de la vie et à travers de la Torah. Donc, la ligne droite, c'est la Torah. C'est très dur de rester au milieu de la ligne droite de la Torah. C'est très dur. Pourquoi ? Parce que tu es obligé d'utiliser la gauche et obligé d'utiliser la droite. Obligé d'utiliser ton pôle émotionnel, obligé d'utiliser ton pôle intellectuel. Si tu utilises que le pôle émotionnel, tu pars dans l'hypersensibilité aveugle. Si tu utilises trop ton pôle intellectuel, tu tombes dans la froideur hyperstructurale. Il faut que tu trouves un équilibre entre une émotion gérée par ton intelligence et une intelligence humanisée par ton émotionnel. Et ça, c'est un travail perpétuel. Il faut être un homme et il faut être un enfant. Il faut être capable de pleurer et il faut être capable d'assumer. Il faut être capable d'être, avoir des idées, des principes arrêtés et il faut être capable d'être créatif. Tout le temps, le travail de remise en cause, le travail de reconstruction, le travail de renouvellement. Et ça, c'est la remise en cause tout le temps entre le pôle émotionnel et le pôle intellectuel. Ton travail de sérénité, c'est la perpétuité d'être à l'intérieur d'un seul sujet par rapport à toi-même. C'est-à-dire que le jour où quelqu'un comprendra qu'il a besoin d'apprendre la Torah, qu'il a besoin de savoir qui il est, qu'il doit se connaître assez pour pouvoir utiliser cette énergie qu'il va diffuser au travers de la Torah à l'intérieur de son psychique, de son physique et de son vécu, il va comprendre qu'il peut être ové tamid, regardez bien, un présent perpétuel. Les inyan, beinyan echad, sur un seul sujet, ça veut dire qu'il va être stable. Comme vous voyez, les gens, ils pensent comme ça, ils repensent comme ça. Ils avancent, ils tiennent la route, ce n'est pas des gens qui vont. Mitzadatsmo, par rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire que la Torah, elle te demande d'être ta propre référence. Non pas sur le mode de la Gaava, parce que la Gaava, c'est que tu es la référence parce qu'il n'y a pas d'autre référence. Mais la Anava, c'est Makir Mekomo. La modestie, c'est que tu connais ta place et tu sais qui tu es. Quand tu as sublimé ton orgueil et que tu reviens à la connaissance de soi, et à la dignité et la connaissance de soi, alors tu peux perpétuer ton existence dans une sérénité au travers des obstacles, en utilisant, en optimisant toutes les énergies qui sont diffusées. Et on arrive exactement à la définition qu'avait donnée le Sforno au début. A Ove Tamid, celui qui est un présent perpétuel, sur un seul sujet, Mitzadatsmo, par rapport à lui-même, en référence à lui-même. Et on a une mitzvah de ressembler à Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle l'acquisition de la sérénité. Ça va ? Voilà.